Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous les amis, 18h03, ravi de vous accueillir dans un nouveau Team Dugas, c'est jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour qui est avec nous ce soir. Bonsoir mon Jean-Louis,
bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, salut Dugas, salut tout le monde.
Ça va l'ami, il y a un gros programme, j'espère que t'es en forme aujourd'hui.
Ouais, comme d'habitude, je suis en grande forme.
Comme d'habitude, exactement. Putain, mais t'es un colosse, c'est fou.
Un colosse,
oui. Ah ouais, t'es un colosse. Bien pas sûr. Que physiquement, hein, je parle bien évidemment. Hein.
De moins en moins physiquement.
De moins en moins, oui, non. C'est ça, ouais. Nous accueillons Eric Dimeco également. Bonsoir Eric.
Salut Dugas, salut Jean-Louis. J'entends un petit sourire dans ta voix. J'attends un petit sourire de joie d'accueillir à nouveau dans notre émission.
Ah oui, bah, c'est une chance qu'on en a.
Il y a un comeback.
Oui, je sais que ça te fait plaisir de t'avoir, petit.
Le nouveau maire de Suresnes.
Oui, presque, t'as raison. Ouais.
Franck Leboeuf est parmi nous. Bonsoir, mon Francky.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de venir. Je vois, tu as dit que c'est un colosse, Jean-Louis. Non, il s'affine.
Merci.
Alors, c'est quoi? Alors, parce que, attends, parce que moi, je viens d'arriver à le studio, donc je ne l'ai plus vu depuis longtemps.
Ouais.
Donc, tu fais le régime, c'est ça? Tu es fier de toi?
Il a acheté une balance.
Ben non, c'est pour ça que j'aimerais que tu me donnes des chiffres, parce que ça ne se voit pas.
Le truc, c'est qu'il a acheté une balance pour.
On est à 3.
C'est la fameuse avec l'application qui s'est dit. Ouais, oui, comment ça s'appelle déjà?
Le problème, c'est que.
Wizin.
Ouais. Le problème, c'est qu'on lui a dit qu'il avait perdu 700 grammes, mais ni dans la.
Ça, c'est des détails pour qui tout le monde s'en fout.
Non.
Mais en gros, j'ai perdu 3,5 kg là depuis.
Ouais, il avait
par contre, tu n'as pas perdu ni masse graisseuse,
ni masse osseuse, ni de l'eau, ni
masse musculaire, ni rien.
On demande où sont partis.
Non, ils sont jaloux, c'est fou.
Exactement, du gars, merci.
Alors, t'aurais grossi 10 kilos, il te défend sur le temps, t'en as perdu 3,5, il trouve à redire.
Elle a l'air super, cette application.
Allez, on y va pour Team Dugas. Donc, avec
on parle pas de Francky, les élections, le machin, tout ça.
Non. Allons-y, Francky, ça s'est joué à combien de voix?
Comment ça s'est passé? Comment ça a été?
Je les ai pas toutes comptées.
3 millions de voix, ça
s'est joué. Non, on a 50 000 habitants, mais attention, le grand vainqueur, tu sais, quand tu perds, tu sors des phrases, quoi. Le grand vainqueur, c'est l'abstention.
C'est la vie.
60%. Non, c'est la grosse
c'est phrase, la démocratie. Tu
sais. Non, on a perdu, on s'est bien battu, mais on a fini 3ème, on a fait 20% dans une triangulaire.
Ils ont fini 3ème sur tour.
Oui, mais c'est bien. En médaille d'or. Non, parce qu'avant,
dans
il y avait du monde.
Normalement,
on a
fini dernier.
On a passé le premier tour quand même. Mais écoute, non, mais voilà, tout va bien.
Donc tu nous as lâché pendant 2 semaines pour finir 3ème.
Non, je ne vous ai pas lâché.
C'est ça.
On m'a fait lâcher. On m'a dit dégage pendant 15 jours. Et puis maintenant, je reviens. Voilà.
Et oui, le temps de parole.
Le temps de parole politique dans une émission de sport.
La parole est de l'or.
Et le temps de conneries. Quand est-ce que sera arrêté le temps de conneries aussi? Comme ça, on en dira un peu moins. C'est possible, ça?
Ah, mais attends, ton émission devra s'arrêter comme
ça. Tu sais quoi?
C'est pour ça qu'ils ont arrêté ton émission.
Nouvelle série d'entrée. Team Dugas, on a commencé ça hier, on va le faire pendant 2 semaines. On revient sur des débats marquants dans l'histoire de Team Dugas et à 19h30, l'indignation de Franck Leboeuf sur Memphis Depay. Quel scandale absolu, ce jet de maillot là.
Ouais, mais les regarde, tu vois, ça voulait dire beaucoup de choses.
Bien sûr. Est-ce qu'il se
fout vraiment? Ça fait combien que tu rumines ça? Ça fait 15 jours ou.
Non.
Ça fait 2 ans.
ça fait 2 ans.
Se fiche-t-il vraiment de l'OL, Memphis Depay? On en reparlera donc tout à l'heure. On présentera aussi Barça Atlético ce soir. Avec cette question, le Barça doit-il faire sa révolution? Fred Hermel viendra nous raconter à quel point c'est tendu à tous les étages, notamment autour du salaire de Léo Messi. Ce sera tout à l'heure à 19h. Et puis Dugas, tu feras la connaissance de la deuxième personne la plus importante à Bordeaux après toi. Le nouveau maire Pierre Urmic sera avec nous à 18h30. Lui qui a demandé clairement à l'actionnaire King Street de remplacer Frédéric Longuepé. Il viendra donc s'expliquer à 18h30 et on pourra en débattre puisque ça ne plaît pas à certains présidents de club.
Jean-Louis, c'est à la place des Quincos, par exemple, si Dugas se promène avec le nouveau maire, qui est le plus sollicité d'après toi?
Ah, bah Dugas.
Ah, voilà, on est d'accord.
Ah, bien sûr.
Bien sûr.
D'accord. Il me semblait aussi. Hein.
Ah, ouais.
Non, d'accord.
Vous croyez?
Là, on est à peu près sûr, personne ne connaît sa tête.
Il n'y a même pas
même les Bordelais ne connaissent pas sa tête au niveau maire.
Ah, si, les Bordelais, si, ça fait très longtemps qu'il est dans l'opposition.
Oui, c'est vrai. Il paraît que c'était très, très coriace. Ça faisait des années qu'il se battait pour essayer de. Bravo.
Exactement.
J'aime bien, moi, ce genre de dessin.
Il a réussi, exactement.
Ce genre de dessin.
Il sera avec
toujours avec les mêmes convictions, surtout. C'est ça qu'il faut souligner.
C'est vrai aussi.
Tout à l'heure, 18h30, il sera avec nous.
On lui passe un coup de lipette, comme ça, il viendra plus facilement.
On débute par Rennes. Mohamed Bouafsi est avec nous. Bonsoir, Mohamed.
Salut, Dugas. Salut, Francky.
Bonsoir,
salut, Eric.
On reçoit le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Florian Maurice est avec nous dans Team Dugas. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut, comment il va, le Florian?
Flo,
ça va très bien, très bien.
Mais quel bonheur de t'avoir. Mais ça fait 4 ans que je te cours après. C'est pas possible.
Pourtant, je suis pas très rapide. Hein. À l'époque, je savais très bien, mais t'as pas réussi à me rappeler, c'est que tu vas
encore. Non, mais j'arrive plus facilement à voir Emmanuel Macron que t'avoir à toi au téléphone. C'est pas possible, ça.
Donc, avec si tu te promènes sur la place, comment elle s'appelle la grande place à Lyon déjà?
Bellecour.
Avec le nouveau maire de Lyon, c'est toi le plus sollicité, je présume, non?
Ah, mais là, il est à Rennes.
Mais alors, on s'en fout, mais il est lyonnais quand même au départ. Comment pas sûr?
Non, le nouveau maire de Lyon,
personne
s'il a été élu, c'est qu'il est. Oui, mais il va être connu. On connaissait Gérard Collomb, mais il va peut-être être aussi connu que lui dans les années qui viennent.
Ouais, mais pas pour le moment. Florian Maurice.
Bon, alors, pourquoi, déjà, en préalable, pourquoi, Florian, vous n'étiez pas dans Team Duga au préalable? C'est parce que j'imagine que dans votre conception, un directeur de recrutement ne s'exprime pas dans les médias, contrairement à un directeur sportif qui est votre nouvelle fonction à Rennes. Pour expliquer à Duga.
Oui, je suis pas quelqu'un de média réellement. Bon, mon nouveau poste va certainement m'obliger à en faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que en tant que responsable du recrutement à Lyon, c'était pas du tout ma place, je vais dire, d'être dans les médias. Voilà pourquoi j'ai été un peu absent ces dernières années.
Ouais, il faut dire qu'il y en a un qui prend une grosse place.
Suffisamment de monde qui s'exprime du côté de Lyon. Justement, Florian, est-ce qu'on peut résumer à ton départ du côté de Rennes à une promotion, à un palier que tu avais envie de passer, tout simplement?
Oui, pour moi c'est une promotion. Je passe de responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais à directeur technique du Stade Rennais. Pour moi c'est une promotion, un nouveau challenge pour moi aussi. Donc j'avais envie de voir ce qu'il était possible de faire dans ce club de Rennes, et je suis vraiment très très content d'être là aujourd'hui.
Justement, comment ça se passe du côté de Rennes? Tu es déjà installé, tu es déjà en place, j'imagine tu travailles déjà depuis plusieurs semaines. Comment les choses se passent avec aussi un président qui est novice? Comment les choses se mettent en place?
Écoute, très très bien. Je suis arrivé la semaine dernière, faire connaissance un peu avec tout le monde. Tu sais, j'arrive dans un nouveau club où faut prendre ses marques. Je connaissais pratiquement personne. Donc ça se met en place tranquillement, mais de la meilleure des manières. Vraiment, j'ai été vraiment très très bien accueilli par l'ensemble du club, pas seulement le président et l'entraîneur, mais toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux. Voilà, c'est un club très sain où ça travaille bien. Et où je me sens très très bien depuis mon arrivée.
Quelle mission, quel objectif t'ont été fixé par l'actionnaire ou par le président, je n'en sais rien, qui t'a recruté? Quel est l'objectif qui t'a été fixé?
L'objectif, c'est de continuer, je vais dire, à faire évoluer le club avec les personnes qui sont au club depuis quelque temps aussi. J'ai envie que ce club-là soit aussi reconnu en France encore un peu plus, mais tout en continuant à s'appuyer sur ce qui a été fait, parce que j'arrive pas pour tout chambouler. Je veux m'appuyer sur ce qui a été fait et bien fait depuis quelques années, mais voilà, l'ambition c'est de continuer à grandir.
T'as un budget pour recruter? Comment ça se passe avec l'entraîneur notamment? Est-ce que vous avez déjà fixé des recrues, un budget fixé par le président pour travailler? Comment les choses vont se passer?
On a des idées sur les postes à renforcer. Après, tu sais que le mercato est ouvert aujourd'hui en France, donc c'est des choses qui vont se mettre petit à petit en place. Le mercato va être très très long, à mon avis très très long. Donc il faut être patient. Après, en termes de budget, on fonctionnera avec le budget du club. On fera pas n'importe quoi. Il y a un actionnaire qui est là et qui nous donne des directives aussi, mais en tous les cas on fera pas n'importe quoi en termes de recrutement et en termes d'investissement.
Florian Maurice, le nouveau directeur sportif de Rennes, en direct dans Team Duga sur RMC. On va pouvoir aborder plusieurs dossiers, Mohamed.
Oui Florian, on peut dire clairement que la priorité du Stade Rennais c'est un défenseur central, c'est là la priorité?
Ça fait partie des priorités. On a envie, comme je le disais tout à l'heure, de se renforcer. Ça fait partie des postes où on a besoin effectivement de se renforcer.
C'est définitivement mort la piste Salissou?
On a entamé des démarches il y a quelques semaines de ça. On est toujours en contact. On est toujours en contact avec le club et l'entourage du joueur. Donc pour l'instant, on reste actif sur ce dossier.
Très bien. Il y avait également le nom de Badiachil qu'on a vu passer.
Le nom Badiachil avec une offre du Stade Rennais pour le joueur de Monaco. C'est toujours le cas. Lui aussi, c'est une opportunité.
On a vu passer 15 millions pour lui.
Parce qu'il a une offre aussi de 15 millions de Leverkusen. Lui, c'est aussi une opportunité pour vous ?
C'est un joueur qui fait partie d'une liste de défenseurs qu'on a identifiés. Après, en termes de moyens, c'est aussi un jeune joueur. On souhaite, avec Julien et le président, évoquer tous ces dossiers-là tranquillement, pas à pas. On n'a pas envie de jeter nos œufs dans le même panier. L'idée, c'est d'avoir plusieurs pistes à chaque fois sur ce type de poste et en essayant de faire la meilleure acquisition possible.
Ça veut dire que Florian,
tant sur le plan investissement, tant sur le plan sportif, évidemment.
Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, un club comme le Stade Rennais peut investir 15 millions d'euros comme ça sur un joueur sans aucun problème.
Sans aucun problème, je sais pas. Disons qu'on a plusieurs postes à pourvoir, donc on va essayer de faire les meilleurs investissements possibles. Après, est-ce que aujourd'hui on peut aller jusqu'à 15 millions? Je souhaite pas m'exprimer là-dessus parce que ça va dépendre aussi des autres postes à pourvoir en fonction du budget global pour l'ensemble des postes à pourvoir.
Et justement, Flo, pour recruter, comment ça marche? Tu as une enveloppe qu'on te définit, des priorités que le coach t'indique et tu dois faire le travail, bien sûr, en concertation avec tout le monde, mais voilà, tu as les postes à pourvoir et une enveloppe, c'est ça?
On
peut connaître l'enveloppe?
Non, je vous la donnerai pas parce que ça va dépendre, je vous dis, d'une qualification peut-être ou pas en Champions League. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte et ça, aujourd'hui, on peut pas le savoir exactement.
Justement, la difficulté, c'est ça. Vous construisez une équipe en vue de la Ligue des Champions, ou en vue d'une Coupe d'Europe ou vous attendez de voir?
Aujourd'hui, on n'est pas en Champions League aujourd'hui. Du moins, à l'instant T, on n'est pas en Champions League. Donc, il faut essayer de réfléchir sur une équipe compétitive pour jouer une Coupe d'Europe. Et derrière, si en fonction de la qualification ou pas du Stade Rennais, soit directement, soit par des playoffs, on verra, on ajustera en fonction. Mais aujourd'hui, on peut pas se permettre de dire, on est un club qui va jouer la Champions League, donc on a un budget de temps. Donc c'est ça qui est un petit peu délicat, mais on travaille sur divers dossiers à des tarifs différents.
Quelques questions sur des joueurs. Pardon, Julien.
Non, juste une question, après je te laisse, Mohamed. Justement, comment vous allez fonctionner avec le coach? S'il y a un litige sur un joueur que toi tu veux, lui veut pas, et vice-versa, qui tranchera? C'est toi qui as le pouvoir de trancher, de décider, c'est le président. Comment ça va se passer?
Il n'y aura pas de litige, parce que dans ma manière de fonctionner, et je l'ai déjà dit, je n'imposerai pas des joueurs à un entraîneur, parce que c'est voué à l'échec. Donc il faudra qu'on trouve un joueur que tout le monde veut. Voilà, d'accord. Exactement. Parce que c'est voué à l'échec complètement. Tu sais très bien, tu as été joueur, vous avez tous été joueurs. Un directeur sportif qui veut un joueur et un entraîneur qui ne le veut pas, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Donc, et moi, j'ai envie de réussir. Donc ça fonctionnera de cette manière-là pour qu'on puisse réussir tous ensemble. Et pour le Stade Rennais.
Florian, est-ce que vous avez la certitude qu'Amari Traoré va rester au club?
Il est sous contrat, Marie. Il lui reste un an de contrat. Donc, il sera là.
Et vous discutez d'une prolongation de contrat c'est la tendance?
Oui, on discute d'une prolongation avec Amari.
D'accord. Une dernière question sur un joueur qui pourrait rester au club, c'est Camavinga. Le président était très clair. La famille Pinot, l'actionnaire principal de Rennes, veut le conserver. Il va rester au club, lui aussi, vous en avez la certitude?
Pour moi, il n'y a aucun sujet. Il n'a même pas été évoqué à mon arrivée. Pour moi, c'était clair que ce joueur-là devait faire partie du projet du Stade Rennais sur la saison qui arrive.
Si Zizou t'appelle et te dit « Flo, on te propose 80 millions pour Camavinga », tu ne le laisses pas partir?
Non.
Bah, tu peux te le faire reprêter derrière, pour un nom.
Ah, déjà, dire non à 80 millions du Real, c'est beau.
Non, parce qu'on a envie de continuer avec ce joueur-là. On pense aussi que pour lui... Il est important qu'il puisse continuer à évoluer au Stade Rennais. Il a tout à gagner en restant encore.
Il a inculqué pour qu'on comprenne encore mieux le garçon. Il a inculqué qu'il fallait qu'il passe encore une année, jouer la Ligue des Champions avec Rennes. Il est pas contre. Il va pas y avoir un bras de fer avec le garçon, si?
Non, écoute, du gars, je suis arrivé il y a 5 jours. J'ai pas pris le temps de voir tous les joueurs encore. D'accord. Mais en tous les cas, dans son esprit, c'est un très bon garçon, c'est un super joueur, évidemment, vous le connaissez aussi bien que moi. Mais voilà, après, c'est des discussions qu'on aura ensemble, mais de mon côté, en tout cas, et de notre côté, on n'a aucune intention de laisser partir Eduardo cette saison.
Terrier de Lyon, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est possible ou pas?
Ça a l'air chaud.
Oui, ça fait partie des joueurs, je l'ai dit déjà, qui ont été identifiés à ce poste-là pour pouvoir venir au Stade Rennais. Il n'y a pas que lui, évidemment, mais oui, il fait partie des cibles qu'on a identifiées, qui étaient déjà identifiées avant que j'arrive. Hein. C'est pas que mon arrivée qui fait que l'intérêt du Stade Rennais il est pas d'aujourd'hui pour lui.
Mbagnang, c'en est où à Marseille ou ailleurs, ça s'en est où pour ce garçon?
Et est-ce que vous regrettez ses déclarations quand il a dit qu'il avait envie d'aller jouer à Marseille, que c'était un club qui lui plaisait?
Non, mais ça, moi j'ai vécu ça à Lyon avec Memphis Depay sur des joueurs qui sont ambitieux, qui ont envie de voir ailleurs. Ça, c'est des choses que j'entends. Voilà. Donc maintenant, après, c'est des discussions qu'on aura avec lui, que j'ai eu un peu déjà avec lui notamment. Et voilà, on s'est expliqué. Et il faut noter aussi que le joueur a de l'ambition, peut-être envie d'aller jouer ailleurs, comme nous personnellement à l'époque on avait peut-être envie d'aller jouer dans des clubs supérieurs. Je l'entends. Après, c'est sûr que il faudra qu'il y ait des discussions. Il est sous contrat avec le Stade Rennais, donc je pense qu'on verra tranquillement comment va se passer la préparation, le mercato pour lui.
Comment ça se passe justement dans des discussions quand c'est comme ça? Est-ce que le président Jacques-Henri Hérault t'appelle pour te dire, écoutez, pour l'instant on n'a formulé aucune offre, on n'est pas pour l'instant intéressé, ou peut-être que oui? Justement, est-ce qu'il y a un gentleman agreement, tu vois, pour justement pour parler, pour discuter quand il y a des annonces comme ça?
Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais eu Jacques-Henri Hérault au téléphone.
Le président Hollweck s'est entretenu avec Jacques-Henri Hérault il y a quelques jours.
Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de Memphis Depay, si je peux me permettre, tu le connais bien, tu l'as vu à Lyon, et on va faire un petit tankard tout à l'heure. Est-ce que toi, qui as été un grand entraîneur, comment tu juges un garçon comme ça, dans ses performances, on parle sportivement, est-ce que tu juges que c'est un grand attaquant comme il le dit lui-même, ou est-ce que tu penses qu'il a besoin de faire énormément d'autres efforts pour pouvoir être considéré comme tel?
C'est un formidable joueur. Vraiment, c'est un formidable joueur. Il n'a pas encore donné sa pleine mesure parce que il a besoin de recevoir beaucoup, beaucoup d'attention, ce qui est très difficile hein, pour un entraîneur dans ce style de joueur-là. Mais c'est des joueurs qui font de la différence. Et on en a connu à notre époque également. Et lui, c'est véritablement un excellent, excellent joueur.
Flo, quand tu es en négociation, enfin quand le Stade Rennais est en négociation avec un club pour un joueur, qui se charge des contacts? C'est toi? C'est le président Hollweck? Comment ça marche?
On se partage les missions à ce niveau.
D'accord. Donc tu vas être peut-être amené à contacter l'Olympique Lyonnais pour récupérer un de leurs joueurs. Ça te posera pas de problème?
Aucun pour moi.
D'accord.
Moi je suis parti de Lyon. Ça fait partie de mon histoire. Lyon.
Non mais tu t'es fait le président. Alors par dépit amoureux, j'ai l'impression t'es un petit peu égratigné quand tu es parti.
Oui,
donc
oui,
tu avais l'air d'être un peu agacé. Donc tu l'as revu depuis? Tu as pu discuter ou tu le recroiseras et vous en discuterez tranquillement après?
Pour l'instant, j'ai pas eu de contact avec lui. Je le recroiserai certainement, bien sûr, parce que j'irai à Lyon voir des matchs, notamment le Stade Rennais. Donc forcément, je vais le croiser à un moment donné. Maintenant, je me suis exprimé par rapport à ça. Évidemment, je le répète, c'est toujours des mots qui font mal, mais voilà, je les entends.
C'est du dépit amoureux, c'est comme je te disais, il était déçu parce qu'il t'aime beaucoup, je pense.
Oui,
que
certainement,
c'est ça.
Certainement.
Justement, sur Lyon, Juninho, donc le directeur sportif, arrête pas de dire qu'il a envie de changer les mentalités des joueurs à Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos?
Les propos de Juninho, c'est les propos de Juninho. Après, moi, ça, il pense comme il le souhaite. Je veux pas intervenir sur les propos que lui a tenus.
Non, mais parce que vous connaissez bien le club, vous connaissez bien les joueurs, c'est pour ça, de Lyon.
Oui, bien sûr. Après, c'est sa perception. En face de moi, j'avais pas l'impression d'avoir des mauvais garçons. Après, il faut peut-être faire évoluer les mentalités, mais moi, j'avais pas l'impression d'avoir des mauvais garçons en face de moi à chaque fois que je les côtoyais. Ce sont ces mots et j'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
Désolé de revenir sur Lyon, Flo, mais tu as été déçu quand on a proposé le poste à Juninho et qu'on te l'a pas proposé, ou est-ce qu'on t'a proposé à un moment de ce poste-là et que tu t'es peut-être pas senti et que on l'a proposé à Juninho et pas à toi? Tu as été déçu?
Non, alors c'est pas de la déception, c'est que à partir du moment où on me propose pas le poste, bah c'est ça veut dire que peut-être je le mérite pas. Et après je suis complètement en phase avec le président quand il fait revenir Juninho qui est une personne emblématique à l'Olympique Lyonnais, c'est son choix, c'est le choix de Jean-Michel Aulas et je dois le respecter. Ou alors si je le respecte pas, et que j'ai une opportunité ailleurs de devenir
comme tu as fait là.
Exactement. Mais je respecte totalement la décision de Jean-Michel Aulas. C'est son club. Il fait exactement ce qu'il souhaite avec son club.
Mais tu avais émis le souhait de faire plus dans le club ou est-ce qu'à un moment donné, tu en as parlé de ça avec le président Aulas?
Non,
jamais.
Non, on en a jamais parlé.
Ces ambitions, parce que tu les avais, ces ambitions, si tu allais à Rennes pour faire ça, c'est que tu te sens capable et que tu aurais peut-être aimé qu'on te le propose. C'est pour ça.
Peut-être que j'aurais aimé qu'on me le propose, mais on en a jamais réellement discuté avec Jean-Michel Aulas. Il pensait que j'étais très bien à ce poste-là. Et il a fait le choix de prendre Juninho, qui est très respectable.
Flo, tu as eu beaucoup de réussite dans tes recrutements à Lyon. T'as décroché des pépites, des choses qui ont bien fonctionné. Il y a une chose qui fonctionne un peu moins, qui a un peu moins bien fonctionné, c'est Andersen. Est-ce que tu penses que ce garçon peut encore réussir et s'imposer?
Alors, tu sais, vous savez, le recrutement, c'est quelque chose de très particulier. C'est spécial. Et des réussites, il y en a. J'ai pas que des réussites. J'ai eu pas mal d'échecs aussi. Je suis pas stupide non plus. Après, quand on prend un joueur, on est convaincu qu'il va réussir. Donc moi, ce joueur-là, je l'ai vu 7 ou 8 fois à la Sampdoria de Gênes la saison passée. Il m'a fait une très forte impression. Après, on sait très bien aussi que quand on arrive de l'étranger, c'est une nouvelle ligue, un nouveau championnat, des nouveaux collègues, un nouveau club. L'adaptation, elle se fait pas forcément immédiatement. Et après, c'est à lui de d'en faire plus pour montrer les qualités qu'il a. Mais c'est difficile de dire que c'est un échec aujourd'hui. Je pense que on va lui dire demain, on lui laissera une saison supplémentaire. Mais je pense qu'il réussira. Si c'est pas à Lyon, il rebondira. Il rebondira. Ouais.
Rappelons que tu as aussi fait venir Ndombele, Mendy, qui sont Dembélé, qui sont des vraies réussites.
Non, mais après, Duga, tu sais très bien, les réussites d'un joueur dans un club, elle est liée à tellement plein de choses.
Bien sûr.
Voilà. Pas seulement à la qualité du joueur.
Duga peut en parler.
Oui, tu es bien passé pour en parler. C'est pas les qualités du joueur qui sont remises à remettre en cause, c'est tout ce qui se passe autour du joueur aussi et du club.
Bien sûr. Est-ce que tu penses, alors on est à peu près tous d'accord, mais est-ce que toi tu penses que, comme moi, qu'on n'a pas été champion en 98 avec l'OM par la faute de Roland Courbis?
Et il nous écoute, il est là, il est dans les studios, il nous écoute, fais gaffe Flo.
Non, dis-moi ce qu'il a pas fait de bien alors.
Il m'a sorti contre le PSG déjà, c'est très
gros. Il
m'a sorti aussi.
C'est plus loin.
Vous pouviez pas être champion.
Mais vous aviez enchaîné pas mal de matchs à ce moment-là. Fallait prévenir la blessure.
Combien de fois? Parce que moi, il a dû me faire le coup une bonne cinquantaine de fois. Combien de fois il t'a dit tu seras titulaire en deuxième mi-temps? C'est pas que deux fois, toi aussi, non? c'est ça. Moi aussi.
Bon. Dernière question sur le mercato.
Oui, une dernière question. On a beaucoup entendu parler, Florian, de Cuisance, par exemple, au milieu de terrain. Est-ce que vous cherchez un joueur au poste de sentinelle? Et quel est le projet avec Nzonzi? Est-ce qu'il est vraiment totalement impliqué? Est-ce que Julien Stéphan compte sur lui?
Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis arrivé, il est totalement, totalement investi, Steven. Il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. Il est là, il reste avec nous. Après, concernant la première question, aujourd'hui, on a un nombre assez important de joueurs au milieu, donc il n'y a pas de recherche à ce niveau-là.
Très bien. Merci beaucoup,
magnifique.
Florian.
Merci beaucoup, Flo. C'était très clair, c'était super. Et puis
bonne
chance. Éclate-toi.
À bientôt. Florian Maurice, donc le directeur sportif du Stade Rennais. On remercie également Mohamed Bouassi pour toutes
ces questions. Merci, messieurs.
Et on revient.
Merci. Il y a des tuyaux quand même, il connaît tous les tuyaux.
Oui.
On essaye.
Ouais, mais souffle pas trop dans les tuyaux quand même.
Très bien, merci du gars.
Merci beaucoup du gars.
Ouais, je t'en prie, c'est un conseil.
Le tout c'est de souffler par le bon mou, c'est tout.
J'espère que tu parleras avec un ton différent au maire de Bordeaux.
Voilà. Avec nous on va voir si tu lui demandes si souffle
le maire.
S'il souffle dans les tuyaux. Il va faire le lèche parce qu'il veut avoir le permis de construire. Elle connaît l'histoire.
Mais moi je suis vert.
Oui, on le sait. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Team Duga continue jusqu'à 20h sur RMC avec Eric Dimeco, avec Franck Leboeuf, avec Jean-Louis Tour. Et c'est le moment, Jean-Louis, de recevoir le maire de Bordeaux.
Juste avant le programme du journal moyen avec Adrien Aygouin. Salut Adrien.
Salut les copains. Il y a deux ans, jour pour jour, tous autour de la table, vous étiez en train de débriefer ce France-Argentine en 2018. Le match déclic de la Coupe du Monde des Bleus. On va revivre ce match tous ensemble à la sauce RMC. Il s'est passé plein de choses ce jour-là pour les Bleus, mais aussi pour les commentateurs d'RMC.
Très bien. Eh bien, on aura ça tout à l'heure. Donc, avant d'accueillir le maire de Bordeaux, je voudrais juste quand même vous faire réagir à ce dont on va lui parler dans un instant. Pierre Urmic, qui sera avec nous dans une seconde. Mais donc, il a d'ores et déjà annoncé qu'il allait demander à King Street, l'actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, de remplacer monsieur Longuepé comme président du club. On va voir s'il confirme tout ça dans un instant. Mais en lisant ça, les syndicats de clubs professionnels ont dénoncé une ingérence totalement inacceptable, aussi bien dans le fond que dans la forme. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'est choquant qu'un maire se mêle de la vie d'un club pro, du gars?
Écoute, sur le principe, je te cache pas que normalement, un maire ne doit pas s'initier dans les affaires d'une entreprise privée. C'est vrai qu'il y a une forme d'ingérence. Je peux comprendre l'attitude des autres présidents et dirigeants. Maintenant, ce qui se passe à Bordeaux depuis de trop nombreux mois est tout simplement scandaleux. Les gens à la tête du club se moquent ouvertement des supporters, des partenaires, des politiques. Il y a eu des déclarations de la part de M. Longuepé très très dures envers ses supporters. Dans Girondins de Bordeaux, il y a Bordeaux. Donc je comprends qu'à un moment ou un autre, le maire puisse demander des comptes. Rappelons que le maire de Bordeaux, quand même, met à disposition le centre du Haillan, le centre d'entraînement aux Girondins de Bordeaux. Donc,
alors du gars. Tu vas
le
pouvoir
maire
continuer
de demander des comptes
et de développer ton point de vue.
C'est pour ça qu'il le fait.
En discutant avec lui, puisque ça y est, il est avec nous en direct. Pierre Urmic, donc le nouveau maire de Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir, monsieur le maire. Félicitations.
Bonsoir, monsieur Dugarry.
Merci d'être là dans Team Dugas. C'est un honneur de vous recevoir. Déjà, félicitations pour votre élection. Déjà, bien, depuis le temps que vous étiez dans l'opposition, j'imagine que ça va être un super moment pour vous, j'imagine.
Oui. J'attendais depuis un moment ce basculement de la ville de Bordeaux et voilà, je suis heureux que ça se soit passé dimanche.
Bon, super. Dites-moi, président, on fait tous à peu près le même constat. Alors, les gens un petit peu plus proches du club. Le club est en énorme difficulté actuellement. Vous avez franchi un cap dans vos déclarations il y a quelques jours de ça. Je crois que c'était hier ou avant-hier dans l'équipe en disant que vous vouliez la démission du président Longuepé. Vous êtes qualifié d'ingérant ou d'ingérence de la part des autres présidents. Qu'avez-vous à dire là-dessus?
Oui, je viens de voir effectivement le syndicat du club dénoncer l'ingérence du gouverneur de Bordeaux. J'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il s'habitue. La seule ingérence qui supporte jusqu'à présent, c'est l'ingérence financière, c'est-à-dire qu'on les aide. Vous citiez le Haillan, c'est un bel exemple quand même d'une ville qui aide sérieusement son club de football. Donc ça ne les dérange pas. Mais que le maire puisse avoir un point de vue sur l'ambiance qui règne actuellement entre le club et les supporters, ça ne les supporte pas. Mais il faudra qu'il s'habitue. Moi, je ne peux pas accepter que le président du club se soit mis à dos les supporters, les ultramarins. On a la chance, en plus à Bordeaux, d'avoir un club de supporters plutôt exemplaire. Ils ont réussi à se les mettre à dos. Moi, j'étais samedi avec eux quand ils ont manifesté sur la place de Valens. Ils étaient 3000. Il y a un malaise. Alors, si M. Longuepé et King Street sont incapables de déchiffrer le malaise, moi, je vais les aider à le déchiffrer.
Justement, vous avez aussi sollicité pour pouvoir parler au patron de King Street. Alors, jusqu'à présent, il a toujours été représenté par quelqu'un. Vous voulez lui parler en direct? L'ancien maire avait aussi essayé de le faire. Il a eu des réponses dans la presse comme quoi il aurait droit à pas grand-chose, si ce n'est éventuellement à une lettre écrite de la part de King Street. Est-ce que vous pensez, vous, pouvoir parler au patron de King Street pour lui expliquer la situation et pour dire que ça ne peut plus durer?
Oui, je pense que pour King Street aux États-Unis, les Girondins de Bordeaux, c'est peanuts. Et que le maire de Bordeaux, c'est vraiment peanuts. Je pense que dans un premier temps, ils ont un représentant local qui s'appelle M. Herman, que je ne connais pas. Donc moi, je vais demander à rencontrer M. Herman très rapidement pour voir s'il y a moyen d'avancer. D'abord, pour connaître ses intentions sur le devenir du club. Est-ce qu'il est en vente, comme certains le disent? Est-ce qu'il est à la limite des dépôts de bilan Bon, je pense que j'obtiendrai des informations de la part de M. Hamad.
Et vous comptez toujours lui demander le départ de Frédéric Longuepé ?
Oui, sauf si m'apporter des assurances en me disant qu'il y a un nouveau Longuepé qui existe et si c'est pour remplacer Longuepé par un Longuepé bis. Je veux pas trop personnaliser, si vous voulez. Ben, peut-être vous êtes maire, vous avez peut-être plus de distance, mais je veux pas personnaliser autour de la personne de M. Longuepé. Je veux pas qu'il me dise, OK, M. Longuepé partira et on va vous mettre un autre qui sera un Longuepé bis et ça sera pareil. Je veux vraiment avoir des assurances qui mettent un président du club qui n'ait pas l'arrogance qu'a M. Longuepé vis-à-vis des supporters et qui ne commette pas les maladresses qu'a commis Monsieur Longuepé. Si Monsieur Longuepé, s'il y a un nouveau Longuepé qui peut naître de sa personnalité, ce dont je doute fortement, voilà, je veux pas donner l'impression, mettez-vous en place du nouveau maire qui commence à couper les têtes. Donc voilà, actuellement j'entends en tout cas la revendication des ultramarines qui disent ça suffit, il nous a suffisamment maltraité, on veut son départ. Donc je vais me faire quand même un peu le porte-parole de ce malaise en me disant que un actionnaire comme Kingsley ne peut pas se payer le luxe de se mettre à dos en même temps et les supporters du club et le maire de la ville. Je trouve que ça fera un peu difficile et un peu désordre. Donc c'est pour ça je pense qu'à un moment donné le maire doit un peu taper du poing sur la table pour que la situation ne dure pas et puis qu'on envisage aussi le modèle économique du foot à un moment donné c'est le rôle des politiques, même si les autres ne le supportent pas, c'est quand même le rôle des politiques de taper du poing sur la table.
Justement, hein. Monsieur le maire, par rapport à ça, quelles seraient vos prérogatives par rapport à
qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait,
qu'est-ce que vous pouvez faire, vous avez
sur le plan juridique, pas grand chose, mais bon,
sur le plan populaire,
sur le plan de la discussion, je pense que beaucoup d'acteurs du monde footballistique et de supporters sont actuellement assez effrayés par les dérives du foot business. Quoi, ça me paraît, le modèle économique du foot business, il est en train de se casser la figure. J'ai bien vu des déclarations qui avaient été faites au moment où King Street a racheté M6, le club du Girondin, notamment par le président de Lyon, Jean-Marie Aulas, qui disait quand même que le foot est une activité particulière. Et il pensait que ça pouvait s'avérer totalement incompatible à les objectifs de fonds d'investissement qui cherche à tout prix à valoriser rapidement, 4 ou 5 ans, un investissement quoi, qui ne se situe pas du tout dans la stabilité. Je pense que le monde du foot a aussi besoin de stabilité. Et j'ai lu Christophe Guillain qui avait été ravi de lire la lettre que vous aviez la lettre ouverte hein, que vous aviez faite, et je me suis trouvé quand même énormément de proximité avec la sévérité de votre propos. Ça me plaît le cri du cœur de Christophe Dugarry quand vous dites les Girondins de Bordeaux se meurent. Je pense que vous savez de quoi vous parlez.
Ouais, ben vous êtes
un stade de trois quarts vide. Moi, j'étais contre la construction de stade de 43 000 places, alors qu'on en avait un de 33 000 et qui marchait très bien, qui était en cœur de ville. Celui-là, il est au trois quarts vide. Donc, quand j'ai lu ça dans votre cri du cœur, pour vous dire, je me suis dit, ah ben ça fait plaisir de temps de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au foot et qui ont quand même une vision un peu plus moderne.
Dugarry a du sport, monsieur le maire.
Ah bah ouais, exactement. Hein. Moi, je me demandais s'il n'était pas conseiller au culte. Ouais, c'est pas possible. Vous pensez tout pareil.
Non, mais dites-moi, monsieur le maire, vous savez quand même, alors je suis ravi, oui. On partage beaucoup, beaucoup d'idées. Je suis ravi que vous rentriez comme ça dans la bataille en essayant de sauver notre club, d'être derrière les supporters. Mais vous savez que ça va être quand même très compliqué parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Il y a eu le changement de logo, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'il y a des problèmes entre les supporters et la direction. Et là où ça aurait pu être un petit peu pacifié avec l'abandon du changement du logo et tout ça, aujourd'hui ça y est, c'est officiel. Donc on voit quand même que c'est compliqué, ça va se tirer. Aujourd'hui, les supporters veulent à tout prix que Longuepé parte et c'est non négociable. Donc aujourd'hui, la situation est très très difficile.
Oui, c'est de la provoque. Hein.
Oui, c'est la provoque.
Moi, quand on avait vu M. Dagrossa, donc, qui avait été GRCP, donc qui a racheté le club aux Girondins, j'ai bien compris très vite que la seule chose qui l'intéressait, c'était le nom Bordeaux. Il nous a dit, moi, je vais vous vendre Bordeaux en Chine, partout, etc. Ce qui l'intéressait, c'était la marque Bordeaux. Et puis, à aucun moment, on l'a interrogé sur le projet sportif. Moi, je m'en étais plein auprès d'Alain Juppé. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que ce gars-là ne nous parle pas de son projet sportif? Il dit, mais vous verrez, monsieur, mais ça viendra, ils en parleront. Je lui ai dit, mais il faut en parler maintenant. Où sont les engagements de ces gens-là de s'inscrire durablement dans la vie d'un club de football qu'ils ne connaissent pas, les Américains, ils ne connaissent pas le football français. Donc, Bordeaux, par contre, effectivement, ça les fait scintiller. Il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait de Bordeaux. Mais bon, voilà, c'était la marque.
C'est pour ça que le logo, aujourd'hui, officiellement, a changé des Girondins de Bordeaux. Et sur le logo, il n'y a plus marqué Girondins de Bordeaux. Ça n'existe plus, ce qui existe.
Ouais, mais ça, moi, je trouve ça.
Alors, il y a marqué Bordeaux-Girondins.
En gros Bordeaux
et Girondins en dessous.
Alors, monsieur le maire, question d'Éric Dimeco.
Oui, monsieur le maire, pendant la campagne, vous avez rencontré les supporters. Est-ce qu'ils sont allés faire le tour un petit peu des candidats pour exprimer leurs problèmes? Et donc, du coup, si vous les avez rencontrés, aujourd'hui, vous êtes un peu, du coup, leur porte-parole, finalement?
Non, je les ai rencontrés, je pense qu'ils sont assez grands. Moi, je veux pas. Vous savez, je veux veiller à ce qu'il n'y ait pas une récupération politique. Hein, franchement, c'est pas du tout mon.
Quand même, monsieur le maire,
je me sens concerné, mais je veux les mettre à l'aise parce que je pense qu'ils ont des opinions politiques différentes, variées, heureusement, qui ne sentent pas. Alors, en tant que candidat, c'est délicat. En tant que maire, ça me sera plus facile parce que, bon, je suis le maire de tous les Bordelais, donc de tous les supporters, et j'ai l'impression que tous les supporters sont pour le départ. Donc, je me ferai leur porte-parole auprès de M. Herman et de King Street. J'espère que personne n'y verra malice.
Ouais, non, juste une dernière question. Avez-vous des infos sur le déficit, le trou du club, les finances du club? Est-ce que vous avez des infos à ce sujet-là ou
Non. Je n'ai que ce qu'il y a dans la presse, donc c'est exactement la même chose que vous. Donc, je ne sais pas. Ce qui me préoccupe, j'imagine, comme vous, c'est quand même qu'on s'oriente vers un dépôt de bilan, parce que ça serait un drame avec les divisions en D2, qui serait, on l'a déjà connu à Bordeaux.
Ce serait même plus bas que Ligue 2, s'il y a un
vrai dépôt de bilan, ce serait même encore plus bas. Ouais.
À un moment donné, on envisageait que les difficultés liées à la période Covid pouvaient éviter cette automaticité, mais je n'en ai pas entendu reparler de ça. Ça ne vous dit rien, non?
Non, ça va être le passage devant la DNCG. Ce passage va découler beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Dernière question que Dugas ne va pas vous poser, monsieur le maire, il va être obligé de vendre son gros 4x4 diesel qui consomme 42 litres pour rouler dans Bordeaux.
Je n'ai plus de voiture depuis bien longtemps.
En trottinette, maintenant.
Voilà.
Ah bon, c'est dommage, je voulais l'acheter.
Vous avez réussi à faire mettre Dugarry au vélo, merci, monsieur le maire.
Bravo. Bon, monsieur Dugarry, tant que je vous ai, je serais content de vous rencontrer. Excusez-moi.
Avec plaisir. Avec plaisir. Par contre, on ne mangera pas du tofu ou des trucs comme ça, non? C'est pas
le sujet. Non, je vous rassure.
Ou des quinoa.
Merci en tout cas, monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urbain.
Merci, monsieur le maire.
Bonne soirée. À bientôt sur RMC. On revient dans une seconde avec le journal moyen.
Encore un emploi fictif à Bordeaux qui se profile.
Non mais ça y est, moi j'ai tout qui connecte. J'ai compris pourquoi Dugas s'est mis au jardinage ces derniers temps.
Oui,
ses voitures. Il a pris sa carte à Europe Écologie Les Verts.
Ça fait très longtemps que j'ai plus de voiture à Bordeaux. J'avais anticipé.
Le mec, il roule à vélo. Incroyable. Il roule à vélo. Il mange de l'herbe. Il fait le jardin.
Il y a un truc.
Et il tutoie monsieur le maire de Bordeaux parce qu'il a fait ça là.
Il appelle président.
Et il appelle président.
Je le vois déjà président de la République.
C'est Éric Dimeco de Marseille qui a parlé d'emploi fictif, c'est ça?
Il en a eu un pendant longtemps, la mairie de Marseille. Il le sait, bien sûr.
Moi, j'ai tout ce que j'ai fait noir sur blanc.
Ça n'empêche. Il y a un contrat dans les emplois fictifs. C'est noir sur blanc. Bon, en tout cas, on le salue. On salue son énergie, monsieur le maire de Bordeaux.
Qui était avec c'est pas facile.
Et sa persévérance, parce que je crois qu'il s'est présenté 4 ou 5 fois.
Oui, c'est ça.
Bravo.
On dit très vite.
Non, c'est juste qu'on va. Non, on n'y arrivera pas. Donc,
je vais pas essayer de important.
Non plus. C'est long,
RMC, 18h20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, les amis, 19h04. C'est reparti pour la deuxième heure de Tim Dugas avec Franck Leboeuf et Jean-Louis Tour, toujours en poste, messieurs.
On est là.
Salut.
Bien sûr, bien évidemment. Nous accueillons Roland Courbis. Bonsoir, Roland.
Oui. Salut, les amis, et salut à tous.
Salut, Roland. Bienvenue. Voilà. Julien Cazard également. Bonsoir, Julien.
Bonsoir les amis. Alors, c'est que j'ai une explication du gars au fait qu'ils veulent ton retour. C'est moi, c'est pareil, quand des fois j'ai 12, je retourne dans mon vieux studio miteux de mes 18 ans et je me dis, finalement, ma vie, elle est pas si pourrie.
C'est pour remettre tout en phase, c'est ça que tu veux dire?
T'as raison. Pas mal.
Fred Hermel également. Bonsoir mon Fredo, comment ça va?
Alors, est-ce que moi je suis obligé de déménager de Barcelone aussi si tu y retournes?
On va faire des soirées.
Si le TGV direct, tu es 2h30 à Madrid, je t'organise tout.
Quelqu'un te louerait un appart à Barcelone, Fred?
Mais tu rigoles, j'ai plein de fans là-bas.
Ah bon, d'accord, très bien.
Et demande à monsieur Moscato
les supporters de l'Espagnol, les supporters de l'Espagnol Barcelone, t'adore. Hein.
Ouais, mais déjà, on considère qu'il y a 1 million de supporters du Real en Catalogne.
Bon, bah là, tu as ça, il t'a foutu la merde.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters du Barça à Madrid. Hein.
Ah, oui. Oh, les footix.
Alors, dans cette deuxième heure de Team Duga, nous, tout à l'heure, à 19h30, on reviendra sur cette terrible affaire Duga, qui a secoué Team Duga pendant longtemps. C'était il y a quelques mois, le 19 mars 2018.
Ça a été un des moments les plus difficiles de mes 4 ans.
Le 19 mars.
Un scandale d'État. Ouais, j'ai pas peur des mots.
J'ai très mal dormi.
Memphis Depay a jeté son maillot par terre au mépris des sponsors. Ça a été terrible. Ça a été l'un des débats marquants de Team Duga. L'indignation de Franck Leboeuf.
Ça a dévoilé sa personnalité, c'est tout.
On y reviendra tout à l'heure à 19h30 parce que pendant les 10 jours qui viennent, on reviendra sur des débats marquants de Team Duga. Le blind test sera là également à 19h45. 32-16 pour vous inscrire. Mais donc, le Barça. Le Barça joue gros ce soir. Réception de l'Atlético à 22h, ce sera sur RMC, bien sûr, dans l'after. Toujours ces 2 points de retard sur le Real et des mini-crises en interne qui nous font poser cette question. Le Barça doit-il faire une révolution en profondeur à tous les niveaux? 32-16 pour en parler. Alors Fred, il y a plein de dossiers à aborder déjà sur les infos. Quique Setién et son adjoint, est-ce qu'ils arrivent encore à parler aux joueurs?
Bah, ils ont déjà eu du mal au début à leur parler, alors maintenant c'est...
Bah, ils savaient pas qui c'était, t'arrives déjà dans
le... Déjà tu dis, mais si ça approche, tu dis, t'es qui toi, Eder Sarabia, qui?
Elle a un peu plus Messi.
Eder Sarabia, S-E-S-A-R-A-B-I-A. Non, donc...
Un peu plus Messi, tu le reconnais pas.
C'était déjà dur pour Luis Enrique. C'était déjà dur pour Luis Enrique de parler avec Messi. Luis Enrique, il a fait 2-3 trucs dans le football quand même. Il a notamment pris un coup de Tassotti et tout ça. Enfin bref, mais... Et donc t'imagines pour Eder Sarabia. Non, la communication, elle est quasiment nulle. Et donc voilà, c'est.
Il y a eu une scène où la télé espagnole a pris une scène où en gros l'adjoint veut parler à Messi. On voit bien que Messi il n'écoute rien, il repart sur le terrain.
Mais c'est-à-dire c'est les pauses, tu sais, d'hydratation là. Ouais. Il y en a deux par mi-temps, une par mi-temps, deux par match.
Appelle des pauses pubs, on appelle ça.
Et là il y a Eder Sarabia. En plus, faut dire que Eder Sarabia, la manière qu'il a de parler à Messi. Mais enfin
il est froid, c'est la pause fraîcheur, il est froid.
Surtout sur le banc, il fait des bons, etc. Il interpelle les joueurs quand un joueur manque, il fait mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là et tout. Non mais il est insupportable quoi.
C'est comme un entraîneur normal, hein.
Mais c'est pas un entraîneur normal. Lui il est adjoint de Setién, mais c'est-à-dire qu'il fait des reproches. C'est-à-dire, le mec il a jamais joué au foot.
Mais en plus, normalement, l'adjoint, c'est le gentil flic, non, dans les staffs. C'est ce qu'on entend souvent.
C'est celui qui est proche des joueurs.
Oui, mais c'est celui qui peut se permettre de dire certaines choses aux joueurs.
Mais c'est qu'il a aucune crédibilité.
Mais vous vous rendez compte le constat qu'on est en train de faire? On parle du Barça.
Non, mais le problème, c'est que ça veut dire Roland ou Fred.
Ça veut dire qu'il faut prendre qui? C'est un fantôme. Et il y a un adjoint qui est incompétent.
Il faudrait prendre qui? On parle du Barça. Il faudrait prendre qui pour que Messi l'écoute?
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat parce que ça n'a jamais été facile pour moi.
À part Zizou, peut-être?
Oui, mais c'est la bonne question, effectivement.
Ou Guardiola, voilà, faut rappeler Guardiola.
Et ça s'est mal fini avec Guardiola.
Voilà.
Avec Enrique, c'est
parce qu'on s'est souvent, moqué de moi quand j'ai raconté. Mais cette scène, mais moi, on me l'a confirmé plusieurs fois. Le jour où Guardiola a décidé de quitter le Barça, parce qu'il y a cette question de soda. Et de l'alimentation et des boissons que prenait Messi. Ouais. On sait que Messi avait souvent des problèmes. Et à un moment, il vomissait, etc. Bon, là, il a pris il commence à prendre soin de son physique. Guardiola avait interdit les sodas. Puisque c'est très mauvais, vous le savez, pour les blessures, etc. Ces boissons très sucrées, etc. Et un jour, Messi prend un soda américain très connu, l'ouvre après l'entraînement, juste sous le nez de Guardiola, il boit devant lui. Et là, Guardiola se dit, je peux plus rester ici, quoi. Ça, c'est une réalité. Il faut savoir gérer Messi. Mais là, vous avez un type.
Ça a l'air d'être ingérable, excuse-moi.
Mais là, vous avez Eder Sarabia qui n'a aucune compétence, qui est Setién, qui tous les matins, il se dit, mais c'est incroyable. Il pensait jamais être au Barça. Pour lui, le Graal, c'était d'entraîner Las Palmas. C'était son niveau.
Le problème de fond, Fred, c'est pas forcément que les entraîneurs essaient d'avoir de la poigne envers Messi ou les autres. Le problème, c'est qu'on est dans une solution intermédiaire avec un entraîneur qui l'a que pour quelques mois, qui est pas installé. En plus, il va y avoir des élections.
Le recrutement, c'est quand même bizarre.
Du gars, qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que Messi non plus. Aujourd'hui, il y a des joueurs. une fin de cycle. Alba 31 ans, Busquets 31 ans, Rakitic 32,
Suarez.
Piqué 33, Vidal 33, Suarez 33, okay. Messi 33. Les mecs, tu les bougeras plus. Ils sont dans leur club. Ils sont chez eux. Et voilà. Et tous les mecs qui viendront de l'extérieur, ils auront pas leur mot à dire. Il y en a qu'un, à la rigueur, qui peut arriver, à mon avis, à rebooster, mais j'en suis même pas sûr, c'est Xavi.
Après, c'est
la famille.
Tu te projettes. Non, mais moi, j'ai très envie de voir Messi entraîné par Xavi. Alors, la question, parce que là, c'est important. Les gens me disent, mais est-ce que Xavi va venir maintenant? Sauf que Xavi fait partie du projet des élections dans un an. C'est-à-dire que le c'est pas un septennat, ça dure 4 ans. Le quartennat, je sais pas comment on dit en français, de Bartomeu se termine en juin prochain. Il y a des élections pour être président du Barça, puisque je vous rappelle que le club appartient à ses socios, à ses membres, aux 100 000 personnes qui votent tous les 4 ans. Et là, il y a un projet qui se prépare avec Victor Font, qui est un opposant très puissant, qui prépare un ticket avec Xavi Hernandez comme entraîneur, Carlos Puyol et Jordi Cruyff comme directeur sportif. Donc vous imaginez bien que le type qui se présente avec cette promesse là, il va gagner les élections mais les doigts dans le nez.
Mais c'est dans un an.
Sauf qu'il y a une urgence maintenant. Est-ce que Xavi Hernandez, qui a refusé d'entraîner le Barça au mois de janvier, rappelez-vous, Abidal, après la défaite du Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne qui s'est jouée en Arabie Saoudite, était allé au Qatar voir Xavi. Xavi a dit non, je veux pas entraîner le Barça maintenant. Mais est-ce que Xavi va tenir le coup pendant un an en rongeant son frein, en disant, voilà, est-ce que j'attends d'aller dans le projet avec le nouveau candidat ou je viens maintenant, mais je renforce un président que j'aime pas? C'est très
avec, avec la liste de trentenaires qu'on vient d'attendre, si en plus de ça, à moins qu'ils rajeunissent les mecs au Barça.
Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que les trentenaires.
Attends, laisse un peu finir. Juste. Donc, vas-y, coach, je suis dit.
Non, parce que.
Il faut surtout renouveler l'effectif.
Oui, mais au moins en partie.
Le problème, c'est que quand tu fais venir quelqu'un comme Griezmann, le mec, il n'est pas accepté. Tu te poses la question maintenant s'il ne va pas repartir.
Excusez-moi, les gars, mais ils ont essayé de renouveler l'effectif. Il a été raté, le renouvellement.
Mais oui, ça a été nul, le recrutement.
Il y a eu Dembélé. Il y en a eu plein de joueurs qui ont essayé de faire signer Arthur.
Vendu pour un joueur de 30 ans.
De le renouveler. Il n'y arrive pas, il se plante. Il se trompe surtout.
Regarde ce qu'on vient d'apprendre. Pjanic. Évidemment que c'est un bon joueur.
Oui.
Enfin, maintenant, Pjanic, qui va sur 31 ans, c'est l'investissement sportif et financier du Barça. Excusez-moi quand même d'être surpris une fois de plus.
Ils l'ont fait signer 4 ans, ils l'ont fait signer.
Ah oui, de 4 ans.
De peur qu'on leur
dise. Il était blessé. À la meilleure recrue, c'est Braithwaite, pour l'instant.
Mais
il n'a pas encore été vraiment intégré.
Imaginons qu'on fait. Allez, on s'amuse, on fait une émission avec du gars, on la prépare, on va dire, tiens, on va faire une blague, tu vois, aux auditeurs et tout, on va dire que Bryce White, il va signer au Barça, tu vois.
Personne n'y croit.
Mais personne.
C'est quand même le très bien pour le joueur, hein,
quand il a signé à Toulouse, j'y croyais pas, donc t'imagines au Barça, quoi.
Mais faut poser des questions sur le recrutement, parce que Christophe, il a raison.
C'est que
quand tu fais venir Griezmann.
Moi aussi, j'avais l'enthousiasme.
Quand tu fais venir Griezmann au Barça, et que tu sais très bien qu'il a pas de place pour jouer, parce que sa place, elle est prise par Messi.
Il y a 15 jours, François était titulaire, et Griezmann remplaçant, sans être blessé.
Ouais.
C'est sûr.
Il y a un problème.
Un petit problème. J'entends tout ce que vous dites, mais le problème fondamental, c'est la direction. Il n'y a pas une direction forte. C'est Messi qui est plus important que le président, et du coup, ça met le bordel partout.
Abidal, il est toujours au recrutement ou pas?
Pour l'instant, oui.
Abidal n'existe plus. Ah. Non, mais il s'est fait. Il a critiqué enfin, Messi.
Il est toujours en poste.
Non, mais le mec, il a eu un post Instagram de Messi contre lui. T'imagines, c'est fini, quoi. Adieu. C'est pire qu'une lettre de licenciement.
Excuse-moi. On est tous à peu près d'accord pour dire que la manière dont fonctionne un club comme le Barça avec ses socios qui sont propriétaires du club, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est aussi la limite, peut-être aussi, du truc. C'est-à-dire qu'un président ne peut pas s'opposer à un joueur et ça renforce le pouvoir d'un joueur aussi important que Messi. Parce que si le club appartenait à un propriétaire, par exemple au président actuel, il y aurait beau y avoir Messi, c'est lui le propriétaire du club, il pourrait mettre Messi sous l'étau. Là, il a aucun pouvoir, le président, aujourd'hui.
Le président du club, c'est Messi. Politique.
C'est Messi c'est-à-dire le président du club.
Le président, comme tout homme politique, le il patron. Pense être réélu. Mais regardez ce qui s'est passé au Real. Quand Cristiano Ronaldo voilà. a voulu mettre au défi Florentino Pérez, eh ben, adios.
Après, bon, sans doute que le président du Real Madrid a un poids plus important que celui du Barça et que la population le suit. Mais si la population se met contre le président, je pense qu'à un moment donné, il y a une révolution.
Attention, Fredo. Le Real est plus grand que Ronaldo. Alors que j'ai l'impression que le Barça n'est pas plus grand que Messi.
C'est bien le problème, bien sûr.
Mais attention, Fredo, quand même, il a failli, ça a été compliqué pour Florentino Pérez quand même. S'il récupère pas Zizou aussi comme entraîneur, sans Ronaldo, sans Zizou, je suis pas persuadé qu'il soit réélu pour les prochaines élections aussi. Donc ça donne quand même un vrai pouvoir, que ce soit à l'entraîneur, que ce soit au joueur le plus important du club. C'est pas facile à gérer cette politique.
La problématique, c'est qu'on est en train de se poser la question, en fait, de faire le gros titre, c'est est-ce que le Messi est ingérable? C'est pour ça que Barcelone ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a eu le problème avec l'Argentine.
Sauf qu'il fonctionne avec lui aussi.
C'est que si lui se réveille pas, j'ai suivi tous les matchs du Barça depuis la reprise. C'est pas beau, mais c'est le seul qui est capable de faire la différence. Ouais. C'est ça qui est terrible.
Mais c'est le seul qui fait la différence avec Ter Stegen depuis des mois.
C'est ça, exactement.
Donc, alors il y a quelque chose qui commence à se poser.
Après il y a un autre.
Il a fait un bon match le dernier.
Pour aller dans ton sens, Francky, on regarde dans toute la carrière de Messi, dès qu'il était tout seul en responsabilité. Ça a pas fonctionné.
Non.
Les Ligues des Champions au début, c'est avec Guardiola et il est très bien entouré avec Xavi, avec Iniesta. Ouais. Celle après, il y a Neymar, il y a Suarez qui sont au sommet. Ouais. Et ensuite, quand on le sollicite pour le recrutement, pour savoir comment il va être entouré, que ce soit avec le Barça ou avec l'Argentine, ils vont dans le mur à chaque fois.
Ah mais c'est clair, c'est pour ça. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai problème avec lui. C'est un problème de gestion avec lui. Et qu'est-ce qu'il veut entendre? Qu'est-ce qu'il veut accepter? C'est un problème.
Un entraîneur, un joueur, ça joue. C'est pas là pour décider avec qui il doit être entouré, etc.
Ce qui se passe aussi, et c'est vraiment basique, la première fois, c'est qu'on entend une petite musique du côté de Barcelone en disant, mais parce que le Barça a des problèmes d'argent, Messi, vous savez combien coûte Messi au Barça tous les ans?
100 millions.
Oui, il y a un problème de salaire, ouais.
Parce qu'il touche 50 millions net. Donc ça veut dire qu'en brut, avant impôt, c'est 100 millions. T'imagines, tu commences l'année à moins 100 millions. Alors, t'as le meilleur joueur du monde, mais ça coûte 100 millions. Et il y a quand même des gens qui disent, il faudrait peut-être que Messi, dans des milieux, dans des journaux pro-Barça, il serait peut-être temps que Messi lâche un peu du lest, quoi. Voilà, et peut-être ne plombe pas le budget tous les ans.
Problème financier.
Moi, d'après mes sources, il a des crédits.
Il a une famille à mettre à l'abri.
Ouais.
Moi, j'allais demander à Duga, qui désormais a sa carte chez Europe Écologie Les Verts, si tu ne trouvais pas ça un peu indécent, 50 millions nets pour un joueur.
Mais
on peut planter combien d'arbres avec ça?
Tu replantes l'Amazonie, là.
Mais est-ce qu'on pourrait penser, et à un moment donné, ce soit inéluctable, de voir partir Messi parce que le Barça a des problèmes d'argent, Fred?
Ah oui. Oui, parce que il y a un moment, ça peut arriver. C'est 100 millions. C'est 100 millions. Donc,
la clause est à zéro.
Oui, ça c'est vrai. Ça, je sais que ça choque beaucoup le coach. Mais si, c'est ce qu'il veut, il veut gratuit.
On peut te choquer en moins que ça.
Et il partirait gratos.
Il y a une clause.
Ça va pas aider le club.
Il suffit qu'il lève le doigt et qu'il demande. Est-ce que je peux partir?
Il part pas à gratos, il part à 100 millions. Au moins 100 millions. Si tu le payeras pas pendant un an.
On te dit qu'il y a une clause. On m'a pas répété chaque fois.
Non, mais m'engueule pas.
Il y a une clause que si il demande à partir avant la fin du mois de mai, il part.
C'est terrible.
Exactement. C'est vrai.
Non, mais il devait pas prolonger quand même.
Ah ben oui, mais il prolonge quand il veut. Puis mais s'il dit je veux prolonger, il prolonge avec une augmentation.
Mais qui le fout de président, directeur du recrutement et capitaine et
Franck,
entraîneur.
Franck, je te rappelle que quand il a choisi l'entraîneur lui-même, ça a été une catastrophe, hein, Tata Martino. Hein,
donc, exactement.
Non mais je sais, mais il est pas là pour
ça.
Il
faut qu'il soit tout sauf président, parce que c'est pas Platini. Hein, tu sais, il y a des mecs comme ça qui sont leaders. Lui, c'est un semi-autiste.
Oui, il faut rien lui demander.
Oui, je sais.
Il a du mal à se gérer lui-même déjà.
Accueillons s'il vous plaît Micheline, qui a fait le 32-16. Bonsoir Micheline, une fidèle.
Bonsoir Micheline.
Bonsoir Micheline.
Alors moi, je pense Micheline. Quand on dit qu'il est, évidemment, c'est un joueur immense. Ceci dit, quand on dit que c'est le meilleur du monde, non, il monopolise une équipe. Il faudrait le voir jouer sans une équipe autour de lui, avec le niveau des gens, des joueurs qu'il y a autour.
Bon, mais le problème, Micheline, je me permets, c'est qu'on le voit en ce moment avec une équipe moyenne et que c'est le seul qui puisse faire à un moment donné la différence. Avec un Ter Stegen dans les buts qui sauve aussi pas mal de bêtises de Piqué et des autres.
Il a pas des joueurs moyens autour de lui, mon Franck.
Oui, joueurs moyens autour de lui. Et puis, de toute manière, si on compare des grands matchs, là, si on parle au niveau de la valeur financière que vous évoquez, qui est une chose, Mm-hmm. Bon, si c'était vraiment le meilleur joueur du monde, qu'il ait, je suis désolée de dire ça comme ça, mais l'intelligence avec, ça se discuterait même pas. Mais là, quand on regarde de près, je pense qu'il est difficile pour lui, il serait difficile de s'adapter à un entraîneur de renom. Je le vois pas, par exemple, du tout avec Zizou, il accepterait jamais ça, Zizou. Hein. Et si vous prenez Guardiola, je pense qu'il a déjà déjeuné avec, ça doit lui suffire. Alors, quand vous avez fait le tour de ces questions d'entraîneur, après vous en arrivez à la direction du club, bah, les dirigeants du club doivent être très ennuyés. Moi, je me mets à leur place. Leur place n'est pas facile. Mais ceci dit, que voulez-vous qu'ils fassent ?
Non, mais bon, Lucine, quand on a c'est terrible.
Toute l'époque où on a dit « Ah, mais Neymar, etc. » Mais Neymar, il est bien conseillé beaucoup plus que l'on ne croit. Et je ne pense pas. Il ira jamais se foutre dans un guépier pareil.
Non, mais c'est terrible s'imaginer aujourd'hui, Michine, un joueur pareil qui a fait autant pour son club, se dire que peut-être le Barça, aujourd'hui, serait mieux sans lui, parce que financièrement, ça serait plus facile, parce que d'autres joueurs pourraient peut-être mieux s'exprimer. C'est terrible, parce que là, on est en espèce de virage important pour le Barça.
Ben, mais malgré tout. Continuer comme ça, c'est-à-dire avec des joueurs de renom, mais les laisser partir ou les caser quelque part où ils récupèrent le mérite de leurs compétences, parce que là, ils bloquent les autres. Hein.
Ouais, mais après
moi,
en plus.
C'est ça qui me choque énormément.
De dire aussi.
Griezmann, bon, c'est pas, on est français à tous là, mais autant en majorité. C'est pas d'ailleurs par rapport à ça. Mais moi, ça me fait de la peine. Je me mets à la place des parents. Qui sont très proches de leur fils, et puis de toute manière de ses supporters, des membres de l'équipe de France, de Didier, c'est vraiment, il est en train de gâcher sa carrière sur le plan compétition.
On va pas trop le plaindre, mais Michine, il va s'en sortir, hein, ça va aller. Hein, mais
il faudrait qu'il se tire de là-dedans.
Mais bien sûr, mais c'est une erreur du recrutement de Barcelone et c'est une erreur de la part de Griezmann. Il savait ce qu'il devait faire et ce qu'il pouvait faire en signant à Barcelone. Ça a été une erreur d'appréciation, hein, de réflexion. Mais de dire que c'est le meilleur joueur au monde, déjà, il a besoin, même le meilleur joueur au monde a besoin des autres joueurs. Sinon, il va pas s'en sortir, que ce soit Ronaldinho, que ce soit Ronaldo, que ce soit l'autre Ronaldo. Aldo ou Platini, ils ont toujours eu besoin des autres.
Hein. Micheline, merci
ils ont
beaucoup.
Une qualité, ils sont avant tout modestes.
Bah, c'est ça, les plus grands sont modestes.
Il n'y a que Maradona qui a besoin de personne, mais c'est une autre époque.
Oui, c'est vrai.
Micheline, merci beaucoup, vous nous écoutez souvent, encore.
Oui, toujours, je suis une indécrottable de votre émission.
Bon, bah, c'est parfait. Vous savez qu'il ne reste plus beaucoup de Team Duga, vous êtes au courant.
Vous allez faire quoi dans une dizaine de jours là?
Oui.
Comment vous allez faire?
Elle fera autre chose.
Hein. Ben, je sais pas.
Elle continuera à écouter.
Non, mais vous regrettez le départ de Duga ou finalement c'est pas si grave?
D'accord. Oui, ben, Duga, j'en profite pour le lui dire s'il est là.
Il est là, il est là.
Je suis une supportrice à l'origine quand il était membre de l'équipe de France. Et moi, je suis une élue du sport du hockey sur gazon.
Oui, d'accord.
Et alors, il y avait le hockey sur gazon quand même très proche. Dans du fait qu'on vit au camp des loges, mais ceci dit, on soutenait, on regardait le foot, on était par rapport à l'équipe de France toujours derrière. Et alors, il y avait ceux qui critiquaient Duga pour le caractère, le machin, etc. Et moi, je faisais partie de la fine équipe et qui fait qu'on me disait, oh ben toi, de toute manière, quoi qu'il fasse dans le match, il a toujours raison.
C'était votre
meilleur
préféré, c'est ça.
Alors je le lui dis enfin.
Ah, c'était vous. Très bien, merci beaucoup, Michine. On vous embrasse, merci beaucoup.
Oui, moi aussi. À bientôt.
Merci, Michine.
Je devais m'en quand tu n'étais pas titulaire.
Bah oui, là.
Mais en deuxième mi-temps.
Croyez.
Oui,
première mi-temps, je devais être insulté.
Bon. Non, mais c'est bien de se dire que toi, c'est pas les fans de foot, c'est les fans de hockey sur gazon qui t'aiment bien.
Écoute, Micheline est formidable.
Julien est bonne.
Un deux, mais Julien est sur une bonne série.
Ah, il est bien, il est bien.
On va peut-être atteindre le 4 à la suite.
C'est dommage que ça s'arrête, hein. C'est vraiment dommage.
Rien ne s'arrête, tout se transforme, tout continue. Vous allez voir.
Tu penses que pour Franck, on peut lui retrouver une campagne électorale qui se passe quelque part par là? Non, c'est pas.
Dans six ans, on va attendre.
Donc, je crois qu'il y en a une qui commence maintenant, Francky. Tu peux en venir dans deux semaines.
Un mandat de 4 ans en temps politique, ça s'appelle un quadriennat.
Quadriennat,
mais c'est en politique, donc.
Fred, merci en tout cas.
Bonne soirée,
Fred.
Ciao. Gros match ce soir.
Bien sûr, ce sera dans la heure. Tim Leboeuf revient dans un instant.
Ah, vous l'avez pas dit, l'année prochaine, ce sera Tim Leboeuf.
Non, c'est une blague. On revient dans un instant avec donc le scandale Memphis Depay.
Ah, ça part pas si c'est ça.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h28, Tim Dugas continue avec Julien Cazard, avec Jean-Louis Tour, avec Franck Leboeuf, avec Roland Courbis, et nous allons revenir sur un débat mythique de Tim Dugas.
Exactement, et puis il y aura le blind test, hein, 32-16 toujours pour vous inscrire, ce sera dans un quart d'heure. Mais donc, effectivement, on va se continuer notre série qu'on a débutée hier et qu'on va faire pendant encore 10 jours, de se remémorer des débats historiques de Tim Dugas. Et nous revenons le 19 mars 2018. Un scandale d'État au lendemain donc de Lyon-Marseille, au lendemain d'une victoire Marseille-Lyon, une victoire 3-2 de Lyon à Marseille, un but à la dernière seconde de Memphis Depay. Écoutez ce qui s'est dit le lendemain dans Tim Dugas.
Tout à fait scandaleux.
Mais qu'est-ce qui est scandaleux, Francky?
Au niveau de l'éthique, il me dérange parce qu'il jette le maillot de l'OL par terre.
Une fois de plus, Memphis nous régale.
Tu jettes pas le maillot d'un club, qui te paye?
Non mais il enlève son maillot, il fait de la célébration comme il veut.
Mais
et David Trezeguet, il
jette son maillot. Il enlève pas, il le jette, son maillot.
Ça n'existait pas, ça, avant.
T'as déjà vu Pelé enlever un maillot, Platini enlever un maillot, Maradona enlever les maillots.
Il a fait un geste, Pelé avait fait ça en Coupe du Monde.
Je suis prêt, démocratiquement, si les auditeurs me disent que j'ai tort, je changerai d'avis et je jetterai mes maillots.
Le signe d'une très grande classe et on est très heureux.
Comment t'arranges l'affaire? Comment t'arranges l'affaire?
Alors voilà, c'était le lendemain de cette victoire. Franck Leboeuf qui faisait donc cette prise de position, cette indignation donc contre Depay.
J'ai toujours. Hein.
Après avoir marqué, Depay retire son maillot et fait une célébration qui fera le tour du monde. Mais il a jeté son maillot à ce moment-là et pour le sponsor, c'est pas bien.
Ben oui, parce que alors, je pense que du pognon. Hein.
On va élargir ensuite le débat autour de Memphis Depay. Mmh. Juste avant, donc je pose la même question de la même façon que j'avais fait avec Dugas hier. Est-ce qu'aujourd'hui tu redirais exactement la même chose, Francky?
J'insisterai un peu plus sur pas le fait qu'il ait jeté, mais la valeur du maillot, de ce qu'il représente pour les gens, et surtout la valeur financière d'un sponsor qui met beaucoup d'argent pour qu'on le voit à chaque fois. Quel est le meilleur endroit pour prendre une photo? Pardon?
Il n'a pas changé d'avis.
Chez eux ou quoi, mon poulet?
Non, mais je dis, est-ce que quand un joueur marque, quel est le moment où il a le plus de photos? C'est quand il marque, un joueur qui marque. Donc là, il y a le sponsor qui a payé très très cher pour avoir son nom sur le maillot, et le mec, il le retire. Mais moi, je suis président, je me suis battu avec des gens pour essayer de séduire un sponsor, et toi, tu retires ton maillot. Je parle plus de jeter, hein, tu retires ton maillot. Je te mets une amende parce que tu fais pas ton travail. T'es aussi, on est dans un système d'image et de sponsoring. Tu ne jettes pas ou tu ne retires pas ton
J'aime
maillot.
Quand tu nous vends du rêve, Franck, tu vois, parce qu'il y a autant de gens, tellement de cynisme dans le foot. Et toi, tu nous vends du rêve. Et ça, c'est beau.
Mais c'est vrai,
le romantisme.
C'est pour ça que je ne suis jamais allé dans le football. C'est beau.
Non, je vais te dire un truc, même fils de paille. J'étais d'accord avec toi, mais j'ai appris qu'il avait baissé son salaire. Il est remonté dans mon estime.
Excusez-moi, moi, j'ai jamais été sur le terrain comme vous, mais quand Marc, on n'est pas un peu en transe, on réfléchit à tout comme ça.
Arrêtez, c'est la masturbation intellectuelle, ça. Moi,
on gagne 3-2 à Marseille, à l'extérieur, à la dernière seconde, et qu'on a le visage un peu en sang, c'était ça l'image à l'époque.
Mais on est conscient de tout. Pourquoi tu enlèves ton maillot? Parce que tu veux montrer tes pectoraux. Donc il y a une idée derrière. C'est pas parce que
Jean-Louis le fait pas, c'est vrai. Jean-Louis le fait jamais.
Sans déconner, qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'intérêt d'enlever un maillot?
Pour ce qui est de paille, c'est pour montrer les tatouages. Pour
montrer les tatouages, voilà. Donc ça, c'est.
Mais on a vérifié qu'il n'y avait pas le sponsor tatoué sur sa peau.
Ouais. Quand
Ibra il le fait,
c'est la prochaine étape.
Il négocie avec le lion du dos.
Ouais, quand Ibra il le fait, il met des sponsors mais sur son tatouage. Il y avait des trucs, il y avait un message. Ouais. Mais sincèrement, je sais pas, Christophe, est-ce qu'il t'est venu un jour l'idée d'enlever ton maillot pour quand tu marques un but?
Il faut marquer un but déjà.
Ça a dû m'arriver,
Francky. Sincèrement, je me souviens pas, mais c'est possible, ça m'est arrivé sur un but particulier. Je l'enlevais pas à chaque fois. Après, il marque un but extraordinaire.
Regarde, on parle de trans. Bon. Il m'a posé une question.
La réponse ne te convient pas.
C'est pas ça. C'est qu'il se rappelle plus jamais de rien, Christophe. C'est le problème de ça. Mais il marque contre l'Afrique du Sud. Alors qu'il s'est fait taillé pendant des années. Oui. On lui dit qu'il a rien à foutre ici.
Eh ben, il fait l'exploit.
Il a enlevé le maillot.
Il fait pas le bras d'honneur.
Il réfléchit. Ça veut dire que t'es pas en transe. Ça veut dire que tu es capable quand même, si t'as un cerveau, de réfléchir, de pas enlever ton maillot,
de pas insulter
les journalistes. Il est dans la célébration.
Il a pas le bras d'honneur déjà. Donc
voilà. Il a réfléchi.
Il est dans la célébration, mais il est pas dans la folie.
Limite.
D'accord. Quand on est dans la célébration, on contrôle encore.
Si t'as un cerveau, ouais.
Alors, du mais il y a beaucoup de mecs qui enlèvent pas le maillot parce qu'ils ont pas de pectoraux aussi, hein.
Et ça aussi. Alors... Oui. Il y a eu Ryan Giggs qui s'est fait, il a enlevé son maillot. Il a fait trois fois le tour du terrain.
Il
tout
a
monde
pas pensé
s'est foutu
aux sponsors,
la gueule des poils qu'il avait sur le torse. Voilà, ça a été. En fait, on s'est foutu de sa gueule.
Et les sponsors de Manchester United, ils sont pleins.
Sharp,
a coupé le contrat.
Surtout Marc Parcotte, il a une esthéticienne à vie, pareil.
Ah oui, très bien. Bon, Duga, tu comprends maintenant avec quelques mois de décalage.
Non, toujours pas, mais bon, ça m'étonne pas, mais c'est Francky, il est en décalage comme ça, mais c'est ce qui fait son charme.
Non, mais moi j'ai le respect des institutions, voilà, j'ai le respect d'un contrat, donc tu vois, je suis en fin de contrat avec RMC, et je suis là, et je parle, et je continue à parler comme si de rien n'était.
Bravo. Ouais. Duga,
c'est Franck.
L'exemple, oui, c'est ça. L'exemple est peut-être mal choisi parce qu'il ne te parle pas. En revanche, si Franck était arrivé en disant, mais de toute façon, Depay, il n'en a rien à faire de l'OL, là, ça t'aurait peut-être parlé un peu plus. T'as eu ce sentiment-là parfois en le voyant.
Il a eu des déclarations où il expliquait que l'OL était un tremplin et qu'il voulait aller voir ailleurs, qu'il pouvait faire partie des 10 meilleurs attaquants au monde. Alors, ça, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait dit, mais où on l'a dit à sa place, notamment le président Aulas. Enfin, moi, il y a eu pas mal de trucs comme ça où on avait vraiment le sentiment qu'il pensait plus à lui qu'au collectif. Voilà, donc c'est vrai que ce garçon, il s'est amélioré quand même.
Ben écoute, voilà. Moi, je voulais te dire,
moi, je trouve qu'il s'améliore. Voilà.
Moi, au tout début, il m'énervait.
Voilà.
Alors après,
je suis d'accord.
On s'en fout qu'il m'énerve ou qu'il m'énerve pas, mais bon, puisque je suis là pour dire un petit peu comment je vois les choses. Et puis, j'ai vu et revu un reportage avec une certaine façon de parler, une certaine façon de réfléchir. J'ai été agréablement surpris. Et depuis, bizarrement, je le trouve même encore meilleur qu'au début, capable à tout moment de faire un exploit. Et ça, donc, vrai. On peut dire ce qu'on veut, mais autant sur le plan médiatique que sur le plan professionnel, que sur le plan football, c'est quand même le meilleur joueur de Lyon. Hein. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le joueur qui ne laisse pas indifférent. Après, tu l'aimes, pas, mais enfin, moi, j'aimerais mieux l'avoir dans mon équipe que contre.
Oui, Duga, j'ai senti quand tout à l'heure on discutait de Depay avec Florian Maurice, quand il disait que c'était un joueur exemplaire et un super footballeur, tu te retenais un tout petit peu, parce que t'as émis des critiques parfois en voyant des matchs de Depay.
Je suis pas fan du garçon. Après, il faut quand même reconnaître que ce qu'il fait, par exemple, avec l'équipe des Pays-Bas, c'est remarquable. Voilà, pour moi, ça me paraît beaucoup plus compliqué à Lyon. Son impact sur le jeu, parfois ses déplacements, sa capacité à jouer avec ses partenaires, est compliqué. Alors qu'avec les Pays-Bas, ça se passe magnifiquement bien. Il y a un tel décalage entre les deux. Voilà. Alors soit je regarde que le Depay des Pays-Bas et je le trouve génial, soit je regarde que le Depay de Lyon et même s'il a des stats qui sont intéressantes, je trouve que c'est largement.
Mais la différence, c'est que les Pays-Bas, ça peut pas être un tremplin. Hein. Il aura pas le choix. Il jouera que aux Pays-Bas. Hein. C'est-à-dire que s'il veut gagner quelque chose avec
les Pays-Bas. Il peut gagner un coup du monde avec les Pays-Bas. Mais moi, encore, je reviens, il y a deux choses. Il y a l'humain, il y a la personnalité et il y a le joueur. Le joueur, il est ce qu'il est. Et moi, je dirais jamais qu'un joueur de foot est nul s'il est arrivé à un niveau comme ça, c'est qu'il avait quand même des qualités. Depay a des qualités, il l'a montré, comme tu parlais Christophe, avec l'équipe nationale, où moi chaque fois je l'ai vu, c'était des prestations plus que convenables, même quelquefois assez exceptionnelles. Mais le fait qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas des performances régulières avec Lyon, qu'il fasse des commentaires, des propos un peu bizarres et une attitude bizarre me dérange énormément. Et ça, voilà, c'est pour ça que j'en ai un petit peu.
C'est un garçon qui paraît, comme Roland le disait. Assez intelligent, c'est un garçon qui on l'a vu dans des reportages, il a une pensée assez structurée. Enfin, moi ça me paraît, comment quand t'as une pensée assez structurée comme il l'a, il paraît l'avoir, on peut faire des déclarations comme il l'a fait.
C'est ça qui me dérange, moi.
Au bout d'un moment, tu te dis, il a fait volontairement cette déclaration, il en a rien à foutre du club, il en a rien à foutre de son coach, de ses partenaires. Il y a des déclarations quand même qui sont assez fortes. Le mec, tu te dis, bon, il est un peu juste, c'est pas très grave, ça mouline pas, il a pas la lumière à tous les étages. ça paraît pas être le cas du garçon. Donc, au bout d'un moment, je veux bien qu'on s'attache aussi à des garçons, mais à des joueurs, mais il faut qu'aussi les joueurs,
on a eu des rebelles.
Au-delà de leur performance.
Dans le monde du football, il y a eu des rebelles. Il y a toujours eu. On parle de, que ce soit Diego Maradona par exemple, mais même Eric Cantona, mais ils n'ont jamais manqué de respect à leurs partenaires. à leur partenaire, ouais, jamais manqué de respect.
Partenaire, que sinon aux autres, oui.
Oui, oui, mais après, chacun est libre de, parce que c'est pour ça que je les appelle des rebelles, contre l'institution, contre des gens, une hiérarchie, ça s'appelle ça des rebelles, c'est quand les gens ne sont pas contents. T'as le droit de, mais lui, il parlait du groupe, de la non-qualité de ce groupe, d'un club qui était pas terrible et qui voulait partir, alors que le mec, il était le mieux payé, et surtout, ses performances n'étaient pas au niveau. Voilà, et moi, les joueurs qui sont permis de ces critiques-là, c'était des top players. Je parle de Maradona, je parle de Cantona notamment, hein, qui est un qui est nommé King, et l'autre, là, il était roi du monde, ouais, du football.
Mais bon, dans tout ce qu'il nous explique, dans ce reportage, c'est pas une vie qui a été facile tout le temps. Hein.
Non, mais ça, Roland, bien est-ce sûr, que t'as une sûr. Vie. Est-ce combien de gamins du foot ont une vie facile?
Oui, d'accord.
On est d'accord, on est à 99%
ce cas-là. Lui, à certains moments, il est critiqué parce qu'il est critiquable, mais après, je trouve que de façon agréable, je le trouve quand même intéressant dans ses explications.
Est-ce que tu penses, Roland, il a 26 ans, est-ce que tu penses que ce garçon peut être un top player? Il a que 26 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Est-ce que tu penses
qu'il vu l'évolution de ce qu'on voit depuis deux saisons, je pense que oui. Alors qu'il y a, à son arrivée à Lyon, je pensais que non.
Et pourquoi il n'y a pas de gros club dessus?
Ça, c'est une farce.
Ça vous étonne pas, vous?
Mais attends,
il y a encore à Lyon. Moi, je trouve ça toujours inquiétant quand t'es encore à Lyon. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Lyon. Évidemment.
Attends, justement, la dernière saison, n'oublie pas que derrière ça, il y a eu un virus et qu'il était en train de faire une grosse saison et notamment en Champions League. Et n'oublions pas aussi qu'il se blesse. Hein, donc et que c'est une catastrophe quand même pour Lyon que ce joueur se blesse et que là le hasard fait des fois bien les choses. Attention, ils sont pas encore éliminés contre la Juve.
Mais tu prends des joueurs c'est où clair. Tu dis ils ont pas les quelquefois la lumière à tous les étages. On prend le cas de Suarez. Moi quand Suarez est arrivé à Liverpool et que je l'ai vu jouer, je connaissais pas le personnage, mais quel joueur. Et un joueur qui fait la différence. Je suis désolé, j'ai jamais eu l'impression que Depay me montrait qu'il était un joueur au-dessus des autres et qu'il était exceptionnel.
Ces derniers temps, oui, quand même. Oh.
Bah,
chaque fois
temps,
que tu regardes Lyon, tu te dis si Lyon gagne, c'est parce que Depay va faire un exploit.
Oui, mais parce que Lyon était tellement faible aussi qu'il
s'est ressorti du lot sans vraiment forcer. Du génie. Son... Mais ce Suarez,
c'est pas sa faute.
Je prends l'exemple de Suarez parce que sincèrement, c'est pas quelqu'un que j'apprécie comme homme. Le mec qui mord trois fois quelqu'un dans sa vie, c'est quand même un mec bizarre.
Oui, mais sportivement.
Mais sportivement, c'est un phénomène. Et je suis désolé, Neymar, je l'aime pas, mais c'est un phénomène sportivement. Et Maradona, je l'aimais pas comme humain, mais c'est un phénomène. Excuse-moi, Depay, c'est pas un phénomène.
Il y a pas un que tu aimes comme un phénomène.
Ah si, Zidane, Platini, Johan Cruyff, Ronaldo, les Payet, deux Ronaldo.
Payet.
ça c'est Christophe. Génie. Ouais, mais j'aime beaucoup que Dimitri Payet, mais on n'est pas dans le même comparatif. mais sincèrement, je trouve pas que ce soit un phénomène. Faut arrêter de penser que Depay.
Les goûts et les couleurs, mon Francky.
Non, mais avec Manchester United, on l'a pas vu.
Il est à la hauteur de Lyon, Francky.
Ça a mis 3 ans avant qu'il démarre.
Tout est relatif.
Mais justement,
relativement à Lyon.
Justement, il échoue.
Alors, génie, c'est un génie. Hein.
Il échoue à Manchester, mais je pense que c'est pas le seul qui échoue dans ce club-là depuis ces 5 dernières années.
Di Maria aussi. Qu'on réagit après. Di Maria, il échoue après avoir gagné une Champions League quand même à Real Madrid. C'est autre chose.
Il débarque, j'appelle ça débarquer. À Lyon, avec un grand point d'interrogation. Au début, je le répète pour la troisième fois.
C'était un long début, Roland.
Au début, sincèrement, je comprends mieux pourquoi il n'a pas réussi à Manchester. Eh bien, ce palier, il a quand même passé. Sur les 15 derniers mois, ben, je trouvais quand même qu'il progressait, on progresse à tout âge, et que puisqu'il n'a que 26 ans, il n'a peut-être pas encore fini de progresser.
C'est vrai.
Ben, un exemple qui peut lui donner le moral, par exemple, si tu veux, c'est Mohamed Salah, avant qu'il arrive à Liverpool, franchement, c'était un parcours un peu pareil.
Et De Bruyne, il a échoué aussi à Chelsea, ça a été
Salah, je suis à Chelsea aussi, il est à Rome, et ça a été beaucoup mieux. C'est vrai, on va lui donner le bénéfice.
Après, voilà.
Très bien.
C'est jamais. 26, c'est jeune à 26 ans.
Laissons-lui le bénéfice du doute.
Voilà.
Je voulais vous faire réagir à deux infos également qui n'ont rien à voir. Hein. Déjà, sachez qu'à partir de la saison prochaine, en Coupe de France, du premier tour aux demi-finales, il n'y aura plus de prolongation. À la fin du temps réglementaire, si égalité, tir au but, comme en Coupe de la Ligue. Donc en gros, en France, maintenant, l'année prochaine, hormis les deux finales de Coupe, il n'y aura plus jamais de prolongation.
Qu'est-ce que c'est dommage. Ah oui, mais... Parce qu'il y avait tellement de suspense, il y avait quelque chose de spécial qui se passe avec les prolongations. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage.
Moi, ouais, le problème, le nombre.
Pour les petits clubs, c'est bien.
Le nombre de fois qu'on a.
Mais la Coupe de France, c'est fait pour qui? C'est fait pour les grands clubs, les petits clubs.
Le nombre de fois qu'on a pu dire, quand il y avait un calendrier chargé avec des matchs tous les trois jours, que c'était anormal, qu'il y avait une équipe qui se reposait parce qu'elle avait été éliminée et l'autre qui jouait, par exemple, des huitièmes de finale avec en plus les prolongations. On disait chaque fois, avec en plus les prolongations. Au moins, bon, ben, il y a ça en moins. Mais par exemple, si on parle de calendrier, c'est pas ce soir parce que je vois que vous allez être effrayé, sinon. Mais déjà, que nous fassions l'exploit, parce que c'est un exploit pour moi, de redémarrer notre championnat que le 20 août, alors qu'on pouvait profiter de notre économie.
Mais ça t'a pas été écouté.
Étaler le calendrier. Excuse-moi, que ça c'est aussi aussi important que les prolongations supprimées.
Moi je pense que là,
si tu as un problème de calendrier, supprime la deuxième mi-temps aussi.
Oui, bah, c'est bien ce
mais là, et comment il fait du gars pour être titulaire?
Non mais Roland, je vais te rassurer. À Bordeaux, ils ont un problème de supporters, ils veulent réduire la tribune, ils s'en vont plus.
Non mais là où je te suis pas coach, c'est que c'est pas parce que t'as des problèmes de calendrier qu'il faut les régler comme ça. C'est-à-dire, règle tes problèmes de calendrier et laisse la prolongation, qui est un truc mythique dans l'histoire du foot, qui est plein de souvenirs pour beaucoup de gens. Normalement, ça devrait même pas être une variable d'ajustement.
Elle sert 20 clubs. Elle sert 20 clubs, même pas. Elle sert 4 clubs, cette décision, parce qu'il y a des clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Sinon, elle sert pas les autres clubs.
Je comprends. C'est pas un problème, calendrier. Je comprends ce que tu veux dire. Rappelle-toi dans nos débats, avant l'arrivée du virus, je le dis et je le répète, et je vais continuer à le dire et le répéter, on se retrouve avec une question, pourquoi il y a autant de blessés? Donc que ce soit en football, que ce soit en rugby.
En plus, il n'y a pas de Coupe de la Ligue l'année prochaine. Hein. C'est fini la Coupe de la Ligue.
Mais justement. Donc,
les sodas,
donc maintenant, peut-être qu'en allégeant un petit peu, parce que si tu me dis que pour réparer ces blessures, il faut avoir des effectifs dans les vestiaires de 30 à 35 joueurs, et pourquoi pas 50 aussi, et après, on va se plaindre que ça coûte cher. Mais évidemment, c'est les salaires qui coûtent cher, et c'est le nombre de tes joueurs aussi qui coûte cher.
Ouais. Non, mais franchement, Roland, l'épuisement des mecs à la fin du match, et quand ils arrivent au bout de leur effort, ça fait partie aussi du mythe du foot. Tu vois les mecs de Calais, excuse-moi, du gars, une autre équipe, les mecs de Granville, tu vois, qui vont au bout de leur nerf, de leur fatigue.
Mais c'est ça, la
parce que sinon,
France.
Les mecs, ils vont calculer à la 65e, déjà, parce qu'ils savent que ça va pas plus loin.
Ah bah là, les mecs vont être pourris, hein.
Tu vois, alors que là, les mecs, ils savent qu'il faut aller au bout d'un effort, et au bout, voilà, c'est magnifique. Et puis, tant pis, s'ils se blessent, et puis, tant pis, moi, je m'en fous, c'est pas moi qui paye.
Moi, je trouve que ça enlève du charme à la Coupe de France. Même si à l'arrivée, il y aura peut-être plus de qualifications.
France-Allemagne, 82. C'est ça qui est beau.
De joueurs amateurs.
Bah, ouais, France, la demi-finale du championnat d'Europe. Enfin, c'était Marseille, ouais, France-Portugal, c'est ça.
Quand t'es au bout de l'usure. Au bout de l'usure.
Ah non, mais bon, mais en même temps, ça va peut-être accélérer le jeu.
Moi, dans mon canapé, je trouve ça beau, en tout cas, l'usure.
Oui, on est d'accord, oui. On trouve ça magnifique. autre info, Victor Osimhen est à Naples. Alors, il n'a pas encore signé avec le Napoli, mais donc l'attaquant de Lille est sur place pour visiter les installations. Je dis ça parce qu'on se rappelle que Nicolas Pépé, l'année dernière, était allé visiter les installations de Naples. À l'arrivée, il n'y est pas allé. Mais, vu les infos qu'on a, on parle d'un transfert qui pourrait aller à 70 millions d'euros pour lui, sachant qu'en plus il y a Gabriel, le défenseur, qui lui pourrait aller là-bas pour 30 millions. Donc voilà, ça pourrait faire 100 millions.
Il a combien de matchs de professionnel?
Oh, bah, il a
25, un truc comme ça. Ouais. Non, mais il a joué en Belgique.
Non, oui, il a un peu plus, c'est pour ça.
Ouais.
Il joue en Belgique. Hein.
Mais donc, dis-nous clairement, Francky, ce que tu veux dire, plutôt que de.
Non, mais on est moi, je pense qu'on est dans la dictature de l'urgence. C'est-à-dire qu'on se.
Francky fait très bonne émission aujourd'hui.
Il a 67 matchs en pro.
67 matchs en pro.
Team Leboeuf, c'est vraiment pas mal.
Ouais. Non, mais 67 matchs en pro. Bah, j'ai pas parlé pendant 15 jours, donc.
tu t'es bien rattrapé depuis 2 heures.
Pardon. Mais 67 matchs en pro, tu signes à Naples.
C'est vrai qu'une centaine de millions pour le duo, là, c'est pas mal.
Non, mais là, quand on parle d'économie, moi, je trouve du bravo. 67 matchs en pro, 70
bravo,
millions.
Francky.
Ça fait 1 million de matchs, c'est pas mal. Bravo, allez, on en parle.
Bravo, mon Francky.
C'est tout. Allez. Mais bon, il va peut-être faire des miracles à Naples. Hein,
et puis,
on lui souhaite, bien sûr.
Quand il arrivera à 200 matchs.
Ah, putain, 200 millions.
Ouais.
Duga, tu veux dire un truc?
Oh bah non, là j'ai plus rien à dire, là j'ai plus rien à rajouter. J'ai du mal à passer derrière Francky là. C'est,
en même temps, il dit tout, quoi. le nombre de matchs pro joués par Mbappé avant qu'il soit acheté 200 millions, pratiquement, ça fait peur aussi.
Ouais, mais sûr, faut comparer Mbappé et Osimhen.
Et moi je fais de l'économie, moi tu parles économie, pas fait de l'économie.
Ah, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on paye très cher des potentiels, c'est tout.
Parce que, il y a pénurie d'attaquants.
En fait, ton argument, il était valable malheureusement il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on ne tient plus compte du nombre de matchs, du nombre de saisons.
C'est pour ça que l'économie va de mieux en mieux.
Ah, l'économie.
C'est pour ça que Bordeaux va finir en national, hein, parce qu'ils ont fait sur du potentiel, ils ont
mis du pognon. C'est à cause de l'économie ou d'un problème de compétence?
À mon avis, quand tu fais zéro économique,
il y a une économie de compétence.
Ouais, voilà, c'est un problème d'économie de compétence.
Et toi, tu dirais que la bulle spéculative,
inflationniste, ça balance. Ah, non, ça, je laisse ça à Manu.
On est venu une émission d'investigation, ça balance. Là, je peux te garantir que là.
Après, c'est vrai que. Pour être d'accord avec Franck, ça peut arriver. Ouais. C'est que le monde d'après, on l'a pas vu arriver, hein, le monde d'après.
Ah,
hein.
On va le prendre en pleine gueule, surtout. Hein.
Mais c'est quoi pour toi le monde d'après, Francky?
Moi? Oh, mais ça va être encore pire.
Jean-Louis, s'il te plaît.
Ça va être encore pire. Non, on va pas parler de ça.
Dommage.
Aux spécialistes.
À Suren, il a essayé de le montrer le monde d'après et les gens ont pas compris. Tant pis.
Si j'en parlais, on va être en procès.
Bon, ne sois pas en procès.
Ouais.
Dans un instant, le blind test. On va vraiment se détendre. Dans un instant, avec une bonne liste, des bonnes chansons.
Ah, les musiques des années 80.
On va voir. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Tout RMC en podcast.
En podcast. Sur l'appli RMC.
Mais t'as fait des marchés et tout pour.
J'ai même fait pire. L'élection. J'ai fait pas pire. J'ai fait du porte à porte.
C'est-à-dire,
tu es allé chez les gens, tu disais bonjour, je suis monsieur.
Tu toques à la porte et tu dis bonjour.
À la porte, il y a une vidéo, tu la chercheras, tu la trouveras.
T'as vendu des aspirateurs un peu?
Non, maintenant, je vantais les mérites de notre liste et de notre tête de liste. Pour ça, on ne pouvait pas faire de réunion. Donc, on allait voir les gens et on appelle ça des élections de proximité.
Qu'est-ce qu'ils disaient les gens quand ils te voyaient?
C'était sympa, on a bu des verres, on a rigolé, c'était sympa.
Ils n'ont pas voté pour toi à l'arrivée, mais.
Non, ça a été, franchement, les gens ont voté pour qui ils voulaient, mais au moins, ils nous ont ouvert la porte, on a discuté, c'était plutôt cool.
Cazard, il va faire ça alors pour boire des coups.
Ah, bah, c'est bien, c'est rigolo.
Ah non, mais ça a été très sympa. Ouais,
c'est peut-être me présenter à une élection, moi, c'est pas con.
Ouais, ça, c'est dans 6 ans, il faut attendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas boire pendant 6 ans?
Je boirai en attendant, ça passe vite.
Ouais.
Et ça t'a plu, ça t'a donné envie de te lancer en politique?
Non, pas du tout. Non, c'est justement le débat. C'était justement le débat, c'est que ça m'intéresse pas la politique. C'est ma ville.
Là, alors
ma ville. J'aime Suresnes. J'avais envie de défendre ma ville. J'avais envie de faire en sorte qu'elle soit saine et qu'elle continue à l'être. Voilà. Mais il y avait un changement, il y avait un gros virage. Parce que le maire sortant ne s'est pas réélu, c'est quelqu'un d'autre qui en a sincèrement rien à foutre de Suresnes. Donc voilà.
Ah bon?
Bah ouais, il a d'autres idées. Mais enfin bon, ça se prouvera plus tard.
Oh là là, dis donc, j'ai l'impression que là, ces dernières phrases vont agiter tout sur Rennes.
Non, mais tout
ça va être repris, ça va
aller. On a essayé de leur expliquer, mais enfin, s'ils n'ont pas lu les tracts.
Ah oui.
Ouais, mais bon, qu'est-ce que c'est comme ça?
Duga, t'as jamais voulu faire de la politique?
Non, mon poulet, non, merci.
Et toi, coach, je fais pas de la politique, moi, encore.
Même pas une minute. Non, le vrai en politique, c'est coach Courbis. Normalement, celui qui doit pouvoir se faire élire avec un petit jeu de séduction, en se mettant les électeurs dans la poche, etc., c'est toi, normalement.
Ben écoute, c'est gentil, mais même pas une minute, je me vois en train de
Eric, il met quoi? Il fait du bon boulot?
Ouais, complètement.
Sur Marseille, ouais, bien sûr. Mais
Ah oui, d'accord. On peut voir le bilan, par contre, c'est possible ou pas? Parce que moi, je veux bien qu'on dise des trucs. Hein.
Bah si, il nous a dit que c'était un bon bilan, on lui fait confiance.
Bah ouais.
Ah bah, allez, c'est bon. Alors.
Noir sur blanc, il a dit.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Duga continue pour encore une dizaine de minutes. C'est le moment que tout le monde attend, notamment Roland Courbis. C'est le moment du blind test.
Exactement, le blind test tout de suite. Le RMC Football Show spécial foot européen arrive juste après 20h avec des gros matchs ce soir bien sûr, et notamment Barça Atlético à 22h, et puis ça joue également en Espagne, en Italie actuellement. On suivra tous ces matchs en direct. Le blind test, équipe Duga Leboeuf contre équipe Cazar Courbis. Avec vous également, Igal. Bonsoir Igal.
Salut les amis, comment ça va?
Bonsoir Igal, très bien, bienvenue mon poulet.
Pour la dernière, je voulais faire une blague de merde du gars, mais je l'ai pas fait, c'est honteux, ça se fait pas.
Bah si, vas-y maintenant.
Tu sais, on a déjà fait un blague, je suis à Cazar.
Je pose beaucoup moins de questions.
Mon voisin, il m'a dit, s'il te plaît, vas-y, fais-le. Fais la folle au téléphone, et tu dis à du gars, salut mon chou, comment c'était la dernière fois? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je dis, je peux pas le mettre mal à l'aise pour la dernière. Alors voilà, je l'ai pas fait, les gars.
Très bien, ça m'aurait pas mis mal à l'aise, t'inquiète pas, va.
Oh, je savais quand t'es connu au moment où t'avais dénué des bouclettes et tout du gars.
Il en faut plus que ça,
Bon, du coup, je te mets avec du gars comme équipe. On est d'accord.
Parfait. Bien sûr.
Parfait. Oh, bah, on a encore un supporter du TFC, William. Salut William, comme hier.
Et bonsoir à tout le monde.
Bonsoir,
salut, William.
Salut, William.
Je voulais quand même faire en fait, donner le bonjour à Adam, que vous avez eu hier soir, le grand boutique de la région toulousaine.
c'est un contact, ça.
Bah, apparemment, non. Mais bon, les grands boutiques se comptent en nombre à Toulouse. Donc,
et pourquoi ce serait un grand boutique?
Il était à Toulouse, et supporter de l'OM.
Ah, je croyais que c'était le Toulousain. Ah oui, d'accord. C'est ça, pardon.
Non, mais c'est, des fois, parfois, il trouve une excuse en disant que Barthez, il est à l'OM, donc c'est un peu Toulousain.
Ouais. Bon, William, ça tu seras avec Julien et coach Courbis.
Et André-Pierre Gignac aussi.
Une chanson.
Ah oui, c'est vrai.
Et derrière, une question foot.
Oh.
Le Forestier.
Non.
Delpech.
Non.
Envoyez le
Ferrer. Nino Ferrer.
Nino Ferrer. Julien Cazard.
Ouais.
Les mecs, faites attention aux chansons que vous mettez, on n'était pas nés, on
va en Nino
Ferrer.
Bah si,
Julien.
C'est un problème.
Julien
était né.
Et si, 1-0. Si moi j'étais né, malheureusement.
Pour Julien. Bien joué, Julien.
Cette chanson. Et la vie continue.
La chanson, c'était
le Sud. Le Sud.
Bien sûr. On va donc chercher un club du Sud de la France grâce à son palmarès.
Toulon.
Intertoto 99.
Conseil.
Cannes. Coupe de France.
Nice.
90. Finale de la Coupe de la Ligue 2011.
Martigues.
Champion de D2.
Istres.
46, 61, 87.
Nîmes.
Champion de France 2012.
Avignon.
Montpellier. Montpellier.
C'est du gars.
Non,
c'est
du gars.
C'est sûr.
Oh, on t'accorde là.
Ah ouais, là. C'était pour toi, coach.
Ouais.
Un partout donc. Nouvelle chanson.
Non,
oui,
Coldplay. C'est qui?
C'est William.
Ah mince. Bravo, William. Oh, comment t'es manqué celle-là.
Ah oui, donc c'était vrai, hein, la folle. Donc du coup, t'écoutes Coldplay.
C'est génial, Coldplay.
Mais non, c'est égal qui faisait la folle.
Ah non, c'est égal, pardon.
2-1, ouais. Donc, Coldplay, Viva la Vida.
Sorti en... C'est la première fois que je rigole à des blagues à Casa.
D'accord. Et bah, tu vois comme quand tout arrive.
Sorti en 2008, cette chanson. Alors, on va chercher le classement des passeurs. Qui finit quatrième meilleur passeur cette année-là. Bah, il y en a trois à égalité.
Rotten,
bien joué, Julien.
Là, c'est de la déduction. Hein.
Bah, il y avait aussi Monterubio ou Chirou. Mais bravo, non, Julien.
Ouais. C'est les mêmes en mieux, quoi.
3-1. Ça fait 3-1. Les champions du monde, vous pouvez vous réveiller. Vous avez le droit. Du gars, il y a une chanson. Prépare-toi.
Oh là, les Roumains, là. Je sais pas comment ça s'appelle.
Ozone.
Oui, Ozone, Julien.
Bien joué.
On a essayé de me le souffler, mais j'ai le casque. Ah mais comment tu peux te rappeler de Ozone?
Je précise que le dire une fois ça suffit. Hein. Si tu le dis trois fois.
Ouais, mais parce que des fois je me fais arnaquer. Quand j'ai dit Montpellier, vous avez entendu du gars, vous. Donc,
ah bah, c'est sûr, c'était du gars.
Ah, oui,
il
n'y
a
sûr.
Même pas de contestation. Alors, sachant que c'était un adversaire des Bleus, de quelle origine est ce groupe Ozone?
Moldave.
Moi j'ai dit Roumain.
Oui, Moldave.
Ah, Moldave.
Et c'était Moldave.
Ouais, c'est
bien joué, Julien. C'est pareil.
On n'aurait pu t'accorder avec une dérogation.
Ouais, juste à côté.
5-1 pour l'équipe ou
ouais, enfin,
pour Julien Cazard contre les autres.
C'est trop facile, on s'amuse pas là.
Ah, c'est vrai, coach. Allez, nouvelle chanson.
Axel Red.
Bravo.
Là, je me fais niquer par le décalage à chaque fois.
Ah, bah,
c'est
t'as fait
cool,
deux
quoi.
Fois, Julien, c'est terrible.
Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage.
Après, t'habites tellement loin, on comprend que tu viens
de
loin.
Ça, et puis quoi, tu viens
pas. Attends, j'habite, je suis chez elle, là.
Ah, d'accord, bah, on ne sait pas.
Chez Axel?
Oui.
Je suis en Belgique,
oh,
patate.
Bah là, ça va aller vite. Un club qui joue en rouge, Axel Red.
Ah, Liverpool.
Liverpool.
Ah bah Liverpool, Francky.
Bravo,
bien
bravo.
Sûr.
Oh non,
bravo,
non, non.
Bah excuse-moi.
Là pour le coup, écoute, 5-3. Tu verras qu'il
est après mais écoute,
mais non,
écoute.
C'est sûr.
Non, c'est
5-3.
Sûr.
Dernière chanson.
Tu te fais pas chez Jean-Louis là. Ophélie Winter.
Non, l'autre. Enfin l'autre. Non.
La Rousseau.
Oui, du.
L'autre. L'autre.
L'autre. La Rousseau. Allez, bravo.
Nolan Roux.
5-4.
Alexis Lalaz.
Du gars, tu
dis bien. Parce que je donne toutes les bonnes réponses
oui.
Depuis tout à l'heure.
Ouais, et coach a le même problème.
Bah ouais,
comme ça.
Il y a une anomalie quelque part.
Ouais, problème de micro. Ouais.
La Rousseau, tu m'oublieras. Saviez que son père était marocain à La Rousseau.
Oui.
Je crois que on s'en foutait, mais j'étais pas sûr.
Eh bien, donnez-moi la date. Vous n'avez droit qu'à une réponse de la dernière victoire du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations.
96.
87, Francky.
2012,
Julien.
Ah non, c'est plus vieux que ça, c'est beaucoup plus vieux que
ouais,
ça.
Ouais, c'est plus vieux que ça. 2018, j'irai moi.
2018.
Ah oui, donc c'est plus vieux
non,
2018.
Plus ancien, Christophe.
Ok, coach.
Ils ont pas gagné la Coupe d'Afrique il n'y a pas longtemps, là.
2004.
Non.
2004, coach. Allez, bah, Igal et William, vous avez Internet. Merde, eh bien, c'est Franck qui est le plus près. T'avais dit combien?
96.
Eh oui,
non, c'est vieux, Franck. C'est 98,
c'est 76.
Non. Ah ouais, carrément.
J'avais le 6, j'avais la
Allez, dernière chanson pour vous départager.
5-5, hein.
5-5, ouais.
Oh putain, mais c'est pas possible. L'italien.
Oui, l'italien.
Cochiante.
Oh merde.
Bravo,
victoire Cochiante. Des champions du monde.
Oh, on s'est fait un peu arnaquer. On s'est fait un peu arnaquer sur deux réponses.
Cochiante, c'est fini.
C'est la chanson, c'est le mec qui chante, comme on dit.
C'est le mec qui chante, Richard Cochiante.
J'ai attrapé un coup de soleil.
Allez, merci tout le monde. Merci Franck Leboeuf, coach Courbis, Julien Cazard, Duga. À demain 18h. RMC Football Show spécial Coupe d'Europe dans une seconde. Ciao à tous.
RMC 18h-20h. Team Duga.